Amis de la 13e heure, bonsoir, bonsoir et bienvenue au Bistrot du Bœuf à Canet, un restaurant nouvellement ouvert, ça fait à peu près 2 mois, et tenu par Willy Gouache et Bruno Gouache, deux fervents supporters et joueurs du 13 catalan, de Saint-Estève, de l'UTC, de Toulouse. Donc merci déjà à l'encadrement, aux dirigeants du Bistrot du Bœuf à Canet, présents autour de cette table pour la 3e. C'est déjà la 3e de la 13e heure cette semaine, la semaine dernière. Par crainte du verglas, par crainte de la neige, de tout du blizzard, personne n'avait osé se déplacer pour assister à cette émission. Donc on l'a fait un petit peu différemment, avant un déplacement des Dragons catalans qui seront dans 2 jours chez les Crusaders. Autour de cette table, bien entendu, on va retrouver Hervé Guiraud, secrétaire général de la Fédération française de rugby à 13. Bonsoir Hervé.
Bonsoir à tous, merci de cet accueil.
À ses côtés, René Mantala, René qui dirige Rugby Forum 13. Celui, eh bien, toutes les infos passent par lui. Il grille. Il arrive régulièrement à me griller un petit peu la politesse sur France Bleu ou sur l'Indépendant. Les infos, il sort un petit peu plus vite que moi. Donc ça me plaît pas trop. Bonsoir, bonsoir René.
Allez, bonsoir.
Alain Forge, aux côtés de René Mantala. Alain Forge, jeune retraité, jeune sportif, professeur de sport, qui a pris de nouvelles fonctions au niveau des jeunes, au niveau de la fédération, au niveau des jeunes sports, de la future équipe d'académie. Bonsoir Alain.
Bonsoir tout le monde.
À ses côtés, le virevoltant, l'exubérant, mais toujours dévoué, responsable président de l'amicale de la tête, Olivier Gonneran.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Olivier.
Bravo.
Et enfin...
Ça vous fracasse pas d'applaudir, monsieur. Non, mais ça fait rien. Non.
Et enfin, à ma droite, le dernier en partant de la gauche, eh bien, Louis, la science, la Bible du rugby à 13. Si vous avez été une seule fois international, vous avez été couché sur ces listes, ou couché sur toutes ces listes, non pas Louis, la brocante, mais Louis, la science, la Bible du rugby à 13. Bonsoir Louis Bonnery. Donc, eh bien, on va commencer cette émission, comme d'habitude, par les Dragons catalans. Je suppose que vous étiez tous présents samedi dernier lors de la défaite des Drax à domicile face à l'équipe de Castelfort. Il y avait Louis Bonnery qui était consultant, pour suivre cette retransmission aux côtés de Nicolas Coutte. Louis, déjà, un premier sentiment, une première vision sur ce match.
Bah écoutez, vu derrière l'écran, il est bien évident qu'on est pris dans le match, ce qui fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps de prendre le recul sur les événements. Mais lorsqu'on revoit le match et lorsque on essaie de réfléchir un peu sur ce qui s'est passé, les premières impressions qu'on avait sur le terrain sont quand même confirmées. C'est-à-dire que les Dragons ont laissé passer une très bonne occasion, une occasion de victoire. Mais la victoire finalement était difficilement réalisable avec les erreurs importantes qui ont été commises ce samedi, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Voilà. Donc je pense que sur l'ensemble, le secteur défensif qui a été la part la plus importante pour les Dragons dans ce match a quand même été de bonne qualité, avec quand même des lacunes, en particulier sur la montée. Mais par contre, là où je pense le public, comme tous les téléspectateurs et les spectateurs présents au stade, ne sont pas forcément très satisfaits, c'est sur le comportement offensif de cette équipe. Donc voilà, on ne peut pas se contenter de faire des matchs en ne faisant que défendre.
Hervé Guiraud, c'est un sentiment partagé au niveau offensif et au niveau défensif sur ce qui s'est passé samedi.
Exactement, j'abonde dans le sens de Louis. Et aussi, je dirais des choix stratégiques. On n'a pas su, à des moments, essayer de s'appuyer sur les conditions du temps, du vent, un jeu au pied à mauvais escient. Donc voilà, et la victoire, la défaite est là. Mais bon, ça fait partie aussi du rugby et de perdre.
Olivier, moi, ce qui m'a interpellé samedi à Brutus, c'est un peu la froideur du public, ne serait peut-être déjà refroidi par le temps, le vent extrêmement violent qui a soufflé sur Brutus, mais j'ai senti vraiment un public froid sur Brutus, et ne serait-ce qu'à dès l'entame du match, on avait l'habitude de voir un public plus exubérant, surtout que c'était juste le deuxième match de la saison, mais on a l'impression que le public, les fans des Drax sont en manque, il y a un truc qui manque quoi.
Et tu dis ce qui fait mal pour moi en tant que président de Peña, mais c'est vrai que je l'ai ressenti depuis ce match de Saint-Hélène où les Dragons ont pris 40 points avec un arbitrage un peu catastrophique. Les gens viennent au stade un peu déjà avec cette appréhension de l'arbitrage, la peur de l'arbitrage. Ensuite, bon, les Dragons se sont bien repris à Salford. Ils attendaient vraiment, vraiment un gros match contre cette équipe de Castleford. Et c'est vrai que, et là, c'est nous, en tant que président de Peña et René aussi à Saint-Cyprien, il va falloir qu'on se bouge un peu le cul, excusez-moi de l'expression, parce que je trouve cette tribune un peu molle, surtout quand les joueurs sont en difficulté. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à un gros match, on pensait que les joueurs allaient confirmer, puis bon, la première mi-temps n'est pas mauvaise en soi. On défend bien, on va deux fois chez eux, on marque deux fois.
Et pourtant, le public n'est pas trop réceptif. 10 à 6 à la mi-temps pour les Dragons contre le vent, et on sent pas une émulation extraordinaire.
Ouais, mais la deuxième mi-temps, tu fais que des fautes, tu ne fais que défendre. Tu as Maguire qu'on marque, il refait un en avant sur le coup d'envoi. Tu as Steven Bell qui lâche un ballon, on reprend une mêlée. Tu as Greg Mounis qui va mettre un coup de coude, troisième faute. Tu as Seb Ragain qui choisit un petit côté dans la gouache, il va directement en touche. Tu as Seita Matassa qui va aussi directement en touche, ça fait 5 fautes. Il n'y a eu que ça. Et le problème, c'est que les Dragons ont joué sans ballon et arrivé à en plus un Randy Chase en grande forme en face. Mais c'est vrai que pour revenir à ta question. Moi, j'aurais aimé quand les Dragons reviennent un peu dans le coup, eh bien, que les supporters se poussent beaucoup plus. Bon, après, c'est difficile quand tu sens que ton équipe n'y arrive pas d'arriver à bout, mais il va falloir vraiment, vraiment que le public y travaille, oui.
René, ce sentiment a été partagé sur le forum tout au long de la semaine ?
Ah, tout au long de la semaine, les forumistes sont très en colère. Il faut appeler ça comme ça. Ils sont en colère parce qu'ils ont l'impression... que l'équipe ne joue pas comme elle devrait jouer. Bon, évidemment, ils sont sur le terrain et pas nous. Par contre, ce jeu a une passe que devant, alors qu'on a des arrières aujourd'hui de qualité. On n'arrive pas à bien comprendre la technique que met en place l'entraîneur. Alors, c'est vrai aussi que le public est moins réceptif. Ça m'inquiète un petit peu. Tous les derniers matchs de l'année 2009, il y avait un public qui était derrière ces joueurs. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, les gens dans les tribunes sont très, je le répète encore une fois, sont très en colère et ils attendent autre chose de l'équipe des Dragons. Ils nous ont fait rêver en 2009. Aujourd'hui, on est arrivé... En 2010, on voulait tous revoir les mêmes matchs, c'est très bien. Alors, on pourra aussi parler, je sais que Louis, là, à partir de là, Louis, il va pas être d'accord, mais on pourrait parler de la prestation de l'arbitre. On en parlera ce soir, parce que moi, je veux qu'on en parle.
On y reviendra.
On y reviendra, voilà. Maintenant, bon, on va essayer de se remettre, peut-être pour le 27 mars, contre Ulcair, bien que déjà, vendredi, on sera tous sous le chapiteau, du moins, je l'espère. Hein. Et pour le 27, on sera encore plus nombreux. Or, je me souviens plus si on doit le faire à Brutus ou à Aimé Giral le 27.
À Brutus.
À Brutus.
À Brutus, sauf que celui-ci, visiblement, devrait être en direct sur Orange, 20h30.
C'était confirmé.
Oui, voilà. Alors, effectivement.
Donc, changement d'horaire, deux heures de
voilà,
plus.
J'ai reçu un petit SMS de Nicolas Coutte, pour ne pas le nommer.
Vous êtes bien avec Orange,
René. Oui, oui, d'ailleurs, Nicolas Coutte.
T'as de la chance de recevoir des SMS de Nicolas parce que moi, il ne me répond jamais. Hein.
Bon, mais écoute, je crois que le message est passé ce soir parce qu'il écoute cette émission, qu'il apprécie. Hein,
c'est pour ça que je le sais.
Voilà. Et effectivement, la prise d'antenne sera à 20h30. Louis, j'espère qu'il nous en parlera, pour un direct à 20h30 pour une prise à 20h de match. Voilà, 20h30.
D'accord, donc l'espoir, Olivier, que ça soit un petit peu plus chaud au niveau du public pour la venue de l'LKR.
Comme je t'ai dit, on va voir le match qui arrive là contre les Celtics ce week-end. En espérant que l'équipe arrive à accrocher mon résultat, parce que tu fais venir les gens au stade avec un peu plus de confiance, forcément, si tu as gagné le match précédent. Maintenant, il faut faire l'union sacrée, moi. Il n'y a que ça. Je pense que les problèmes extrasportifs, ça ne nous regarde pas. On peut en discuter.
On peut dire,
on reparlera du départ de Mog. Je sais très bien que ce soir, il y a des questions qui vont être amenées là-dessus. Mais nous, il faut qu'on se concentre à soutenir nos joueurs, dans les bons comme dans les mauvais moments. Arrêter un peu de cracher et de critiquer tout le monde. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est les encourager. Puis on verra la suite.
Et justement, pour info, ce soir, donc, on attendait Kevin Walters, Laurent Frécinous, qui ont pris du retard au niveau de la vidéo. Demain, départ pour le Pays de Galles. Donc, ils ont été retenus. Ils sont encore au bureau à Saint-Estève. Et de même pour les joueurs qui, demain, 7h30, première séance vidéo. Puis terrain, 8h. Donc, Sébastien Munoz n'a pas voulu déléguer 2-3 joueurs, ce qui était prévu initialement.
René. Rassure-moi, Bruno, ils ne sont pas défilés. Tout de même,
ils ne sont pas défilés. Pour l'instant, c'est l'excuse du retard au niveau de la vidéo, mais ils m'ont garanti que d'ici 15 jours, ils pourraient venir tous les deux, d'autant que l'attente est importante au niveau de Kevin Walters, au niveau de ses choix, au niveau de la préparation physique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. René, de toute façon, vous avez dû le voir déjà sur le forum. Au niveau des choix, la première question, c'est peut-être au niveau des choix, et ensuite, il y a la préparation physique qui vient juste derrière.
Absolument. Les questions qu'on voulait lui poser, bah bon, il n'est pas là, on ne pourra pas lui poser, mais on espère lui prendre, c'est que quand on recrute un ailier, c'est pour jouer à l'aile. Quand on recrute un numéro 6, c'est pour qu'il joue numéro 6. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se balade sur le terrain à des postes qui sont pas faits pour eux. Bon, maintenant, bon, je ne suis pas l'entraîneur. Derrière chaque supporter se cache un entraîneur, un sélectionneur, toujours, un président. C'est vrai que c'est facile pour nous.
Voilà. Louis Bonnery, tout à l'heure, vous parliez de l'organisation collective.
Oui, moi, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. En définitive, j'attribue tout ça, moi, à une sorte de crise de croissance que connaissent les Dragons. Parce que quand on a passé les quatre dernières saisons sur une dynamique toujours positive, c'était toujours plus Wembley. Bon, donc le club qui était parti de rien, en quatre ans, a atteint un niveau extrêmement haut. Mais on se rend compte que la Super League est de plus en plus exigeante et que ça ne suffit plus. Donc malgré tout ce qui a été fait, et on peut prendre n'importe quel secteur, on peut prendre l'organisation des Dragons, l'organisation sportive, les bases du recrutement, le volume d'entraînement, l'organisation des peignes des supporters. Bon, il faut quand même comprendre que l'histoire des Dragons, c'est une histoire jeune qui est montée très rapidement. Et je pense que maintenant, on s'est stabilisé à un certain niveau qui va nécessiter encore plus de travail, encore plus de moyens pour repartir sur un autre niveau. Mais je ne pense pas que les Dragons régressent. Non, voilà. Les Dragons sont à un niveau où la concurrence et la Super League, c'est quelque chose qui exige tout le temps plus, tout le temps. C'est ce que j'avais fait un papier dans un programme, ce que j'appelle la triple pression. Aujourd'hui, un club, il a la pression financière. Parce que c'est comme ça, les réalités financières sont une composante indiscutable de cette affaire-là. Pour que ça tourne, il faut des finances. Il y a la pression sportive où, évidemment, tout le temps, il faut un peu plus, parce que les autres clubs s'organisent aussi. Et puis, il y a la pression administrative, que j'appellerai générale du club, où on exige toujours un peu plus. Donc voilà, alors je crois qu'on a été habitué à vivre dans un club qui progressait, et qui là est stable, mais dans un niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'il était celui il y a 3 ans. Donc je pense quand même qu'il faut raison garder, et qu'aujourd'hui, il faut que le club se réorganise, se restructure par rapport à de nouvelles exigences qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a connues il y a 3 ans. Voilà, moi c'est l'analyse que j'en fais. Donc à partir de là, on se rend compte des limites actuelles de certaines choses. Ça ne remet pas en cause les personnes, ni l'organisation, mais quand même, il y a des fautes techniques qui sont impardonnables chez des joueurs du niveau de la Super League, qu'on pouvait tolérer il y a 3 ans chez les petits Français qui débutaient, qu'on ne peut plus tolérer chez des professionnels qui sont là et qui ont quand même un palmarès. Et là, ce n'est pas un problème de cibler un joueur ou pas, mais bon, il y a quand même des fautes. Sur les coups d'envoi, il y a un mal chronique chez les Dragons catalans. Moi, j'ai vu des supporters qui ont coupé la radio quand ils ont vu qu'une nouvelle fois sur le coup d'envoi, alors que le club se met dans une situation de prendre le score, on attend la mi-temps, on est tranquille, bon, comme on a dit, contre le vent, la performance est bonne, l'espoir est plein, pop, patatrac, on tombe un ballon à 45 secondes de la fin de la mi-temps, on manque un plaquage, c'est un essai au milieu des poteaux. Donc voilà, donc je pense que maintenant, il faut que le club, que tout le monde comprenne, supporters compris. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, quand les supporters ne sont pas là, moi j'ai trouvé qu'ils étaient là.
Ils sont là, mais moins chauds.
Ah mais non, mais ils sont moins chauds, mais on ne peut pas vibrer pour quelque chose qui ne fait pas vibrer.
Voilà, exactement.
Bon, on assiste à un... C'est comme quand on voit un film, bon, qui est plat, bon, ben, ma foi, on n'a pas le même enthousiasme que quand ça cartonne, yeah. que ça correspond à ce qu'on est venu voir. Aujourd'hui, le public, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas vu un vrai match, le vrai visage des Dragons qu'on a connu il y a 2 ans en arrière, quand ils ont battu Leeds, Saint-Hélène, etc. Enfin, il y a eu des séquences de jeu, par exemple, l'essai de Greenshield, l'essai qu'amène Greenshield. Bon, c'est certainement un des plus beaux essais de la Super League de l'année, mais c'est un éclat qui dure 20 secondes.
Le problème est que ça fait 2 ans que les plus beaux matchs des Dragons catalans se font à l'extérieur. En suivant les Dragons catalans pour France Bleu Roussillon à l'extérieur, je me suis régalé l'an dernier à Saint-Hélène lors du dernier match de play-off. Je m'étais régalé à Wigan l'année d'avant quand ils ont gagné et l'an dernier quand ils ont failli gagner. Et puis pendant les 3 matchs de play-off. Mais c'est vrai, Hervé Guiraud, peut-être que le public aussi très résiste est devenu plus gourmand plus exigeant avec les Dragons par rapport aux prestations.
Exactement, c'est ce que disait Louis. Bon, on a atteint maintenant le degré d'excellence. Il y a 4 ans, on se satisfaisait d'une petite défaite. On était content lorsque les Dragons perdaient de 5-6 points. Il faut se souvenir quand même les valses qu'on a ramassées.
Lors de la première année.
À la première année
à Aimé Giral.
À Aimé Giral. Donc, voilà, comme a dit Louis, entre-temps, il est passé la finale de la Cup. Les demi-finales, depuis 4 ans, les Dragons ont atteint l'excellence pratiquement. C'est une des grosses écuries de la Super League. Alors c'est vrai que bon, en ce moment, le début de saison est difficile. Et ces supporters, bon, même moi, franchement, je trouve que les supporters actuellement sont trop exigeants. Moi, lundi soir, j'ai rencontré 3 Dragons, donc je peux vous les parler. Elima, je peux vous dire les noms. Elima, le petit Bosque et le petit Belle qui étaient venus pour une réunion pour l'avenir pour l'équipe de France. Et c'est vrai qu'ils sont eux aussi un peu déçus parce qu'ils ont besoin de ce public qui les porte à Brutus depuis 2-3 saisons. Et on en parlait, et c'est vrai que ce samedi dernier, ils n'ont pas senti, même s'ils sont conscients en ce moment du manque de performance, de la beauté du jeu, du pauvre jeu qu'ils pratiquent. Mais c'est vrai qu'ils demandent à des moments ce soutien, et ce soutien n'est pas venu parce que bon, Louis dit, moi je n'ai pas senti un public qui vibrait, c'était terne. Bon, c'est vrai qu'il y a la qualité du jeu, mais je crois que le supporter aussi trésiste a le devoir de soutenir ces joueurs. On connaît d'autres sports où les supporters se contentent d'une bien piètre qualité. On applaudit pour un coup de pied qui passe au milieu des barres, pour un coup franc à 20-22 mètres pratiquement, et tout le monde se lève. Donc c'est vrai que on est difficile à 13, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut oublier la qualité qu'on est en droit d'attendre et soutenir nos joueurs. Et je crois que c'est ce que vont demander les joueurs des Dragons vis-à-vis des Peña. Je crois que c'est notre devoir supportrice de les aider dans une période difficile, justement d'éviter toutes ces mesquineries que, bon, je suis interdit de forum, René m'a interdit du forum, mais on me porte des photocopies de toutes ces interventions de supporters, de tous ces entraîneurs en herbe, tous ces gens qui
chaque moi, supporter je, comme chaque, voilà, est un entraîneur.
Bon, depuis 1789, et Louis, depuis la liberté, l'abolition des privilèges, on a le droit de s'exprimer. Bon, ça c'est quand même heureusement. Mais moi je râle quand je vois tout ça, tous ces gens qui n'auraient pas porté les valises à ces joueurs qui se permettent de critiquer un tel, des gars qui ont des qualités extraordinaires. Parce que moi, actuellement, les joueurs qu'il y a en ce moment en France sont les meilleurs. Sont les meilleurs avec l'exigence de notre sport. Les efforts qu'ils font au niveau de l'entraînement. Attendez, il n'y a pas un joueur qui s'est entraîné comme ça. Ils savent tout faire, nos joueurs. Moi, là, j'ai aucun complexe là-dessus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, période difficile, et c'est à nous, c'est le rôle de ne pas les démonter, parce que, vous savez, nous vivons dans un petit monde, les joueurs sont attentifs à toutes ces remarques. Alors je peux comprendre que pendant une heure sur un forum, les gens, sur le coup de la déception, s'expriment et taillent. Mais après, je crois qu'il faut relativiser, il faut poser un peu ses esprits et penser ce qui est positif dans une partie, quoi, voilà.
Olivier, la Peña de la tête, une réaction au propos d'Hervé.
Autre chose, pour que l'ambiance un peu se réchauffe dans Brutus, ce que j'ai reproché, j'ai eu Laurent Frissino sur téléphone, hein, il était d'accord avec moi, hein, je lui ai dit, Randy Chase, par exemple, l'ouvreur nous a fait de tout, il faut reconnaître sur le match, il a été exceptionnel. Moi, le seul petit reproche à l'équipe, même reproche que les gens ont relevé dans les tribunes, on n'a pas mis un carreau du match. Si tu veux faire relever une tribune, quand l'équipe revient au score, Randy Chase, il te fait de tout. À un moment donné, ce gars...
Défensivement aussi.
Défensivement. Tu le laisses debout. Chani le faisait très bien, ça. Il venait en deuxième ou en troisième, mais le carreau, il lui mettait. Et là, le public s'est dit, bon, on voit qu'ils sont énervés, on voit qu'ils sont chauds. Et on a pas senti vraiment cette grosse rébellion qu'on avait par le passé. Rappelez-vous, quand le public, à chaque placage, était debout, c'est qu'il se passait... On sentait que l'équipe allait reprendre le dessus, que physiquement, il se passait quelque chose. On l'a pas senti, ça. On l'a pas senti.
Allez, Sébastien Munoz qui vient de nous rejoindre.
On peut l'applaudir, là. Sébastien.
Voilà, on peut l'applaudir. Au contact des joueurs, les directeurs sportifs des Dragons catalans, au contact des joueurs, Sébastien, comment vous avez senti les joueurs déjà tout au long de la semaine après ce revers sans parler du départ de Mont, on va y revenir tout à l'heure, après ce nouveau revers et cette froideur un petit peu du public, comment vous avez trouvé les joueurs, que ce soit lundi matin avec les entraînements qui ont été modifiés à partir de 6h du matin, lundi matin et mardi matin, comment vous avez senti tout ça dans les vestiaires?
Bonsoir, ben c'est sûr que bon déjà l'heure matinale, le fait que les joueurs bon il y avait un peu un effet de surprise. Ce qu'on ressent et ça c'est clair, c'est ben il y a une forme de doute qui s'est installée et bon les joueurs doutent, la confiance ben peu à peu s'étiole et c'est vrai que ben au fur et à mesure on sent très bien que ce manque de confiance est là et puis et qu'il faudra du temps peut-être pour le reconstruire.
Est-ce que les joueurs sentent que le public est exigeant, de plus en plus exigeant forcément par rapport à la composition de l'équipe, enfin, par rapport tout du moins aux joueurs qui composent cette équipe?
Ah oui, ben oui, les joueurs sentent. Mais c'est les premiers, honnêtement, pour les avoir entendus parler, c'est les premiers déçus. Hein. Ils sentent très bien que. Ben, ils apportent, du moins ils aimeraient apporter autre chose au public, ils aimeraient que le public leur faire plaisir, un peu c'est ça l'échange qui se passe, c'est que d'autant encore plus peut-être entre notre public et nos joueurs, parce qu'il y a une forme de proximité, on a toujours été proche du public, proche des peignants, on a toujours été... Il y a toujours eu cet échange, cette communion, et c'est vrai que les joueurs sont peinés, honnêtement. Moi, je les ai entendus parler, ils sont peinés, il y a un sentiment un peu de culpabilité, de dire, purée, on n'arrive pas à rendre ce que les gens nous donnent. Sans les citer, de joueurs qui parlaient, ils disaient, purée, les gens qui sont venus, il faisait froid, ils ont fait l'effort. Donc, il y a vraiment une forme de culpabilité. Et en même temps, une forme...
Ils sont aussi demandeurs. Ils ont...
Ah oui, par contre, ils ont besoin du public. On le sent.
Ils insistent d'ailleurs avant chaque match.
Ouais, avant chaque match, ils insistent parce que c'est vrai que... ils reconnaissent qu'il faudrait rendre plus, mais ils ont besoin d'eux. Et je pense que dans ces situations-là où la confiance... n'est pas et instable, ils ont besoin d'être poussés, d'être aidés parce que les joueurs ne font pas esprit de mal jouer ou de ils le font pas esprit,
heureusement
ils préféreraient faire plaisir à tout le monde parce que dans le public il y a aussi leur famille c'est vrai que ils aimeraient mais en ce moment les blessures le manque de confiance font que ça doute un peu.
Et les entraîneurs, ils sont comment dans leur tête? Parce que moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de savoir comment les entraîneurs vivent cette situation, vivent le fait de voir leurs joueurs sortir du terrain la tête baissée, voir leurs joueurs déjouer. Quand on voit un garçon comme Steven Bell qui a gagné la NRL il y a 2 ans, le voir déjouer complètement, totalement samedi dernier. Comment les entraîneurs, vous les avez sentis cette semaine?
Alors les entraîneurs, ils passent par plusieurs états. Après le match, c'était la
tête
colère.
Dans le saut.
Non, la colère. La colère. La colère, je peux vous assurer que Kevin Walter était furieux. Quand je dis furieux, je l'ai rarement vu. Pourtant, je le côtoie souvent. Je l'ai rarement vu dans cet état-là. Je peux vous assurer que dans le vestiaire, tout a valsé. Les chaussures au
coup de sifflet final.
Ah ouais, ça tout a volé, des chaussures, des livres, des magazines, les boissons énergétiques, tout y est passé, les portes.
Pas les joueurs quand même.
Non. Et il a fait dans le vestiaire des entraîneurs et vraiment c'était la colère parce que la colère. Après ça la déception par rapport au public, aux joueurs, à lui-même. Le fait que on avait les clés du camion quand même à la mi-temps, honnêtement, moi j'étais dans le vestiaire.
Vent dans le dos à venir.
Il a passé un message hyper clair. Il les a avertis sur les risques adverses, sur les faiblesses, sur le jeu au pied, comment il fallait le gérer avec le Vans. Vraiment, c'était clair. Et il leur a dit vous faites ça, on gagne. Et je sais pas si vous l'avez vu quand même, au bout de 15 minutes, il est descendu.
Oui, il est resté avec l'enfant.
Il est resté en bas parce qu'il a dit mais c'est pas possible, je vais aller au contact. Il est descendu pour. Donc de la déception, du doute sûrement, mais ça, il ne le montre pas, ça apparaît pas parce que si les entraîneurs se mettent à douter.
Bien sûr, non, il faut pas.
Mais lundi. Ils étaient repartis au boulot, tous les deux étaient là 5h du matin, ils sont partis le soir Il devait être 20h, hein, mardi ils étaient là 5h du matin, ils n'ont pas mangé. Ils sont repartis dans le boulot parce que bon, ils pensent que ça peut passer, ça ne passera que par le travail et par le.
Bien voilà. Sûr. Alain Forge, supporter numéro 1 des Dragons depuis le début. Et maintenant, à domicile, le jeune retraité. Ah, Alain.
Voilà, moi, je voudrais en revenir sur le public. Je l'ai trouvé plus résigné que vindicatif, le public. Je ne l'ai pas trouvé vraiment vindicatif contre l'équipe. Le public, il est abasourdi depuis le début de la saison du jeu pratiqué par les Dragons, collectivement et même individuellement. Il y a des erreurs qui sont commises et qui sont très fortes pour les joueurs de Super League. Et aussi, ils sont déçus par l'arbitrage. Il faut quand même parler de cet arbitrage britannique qui nous assaisonne plus ou moins, mais qui nous assaisonne à tous les matchs quand même. Par exemple, si on reprend l'action de samedi, bon, qui se trompe sur la première action, il siffle un peu avant quand ça va prendre le trou pour aller marquer, il siffle avant, mais il nous refait la même chose
deux fois.
5 minutes après pour Bentley. Bon, qui se trompe la première fois, on peut le comprendre. Mais la deuxième fois, ça fait quand même un peu beaucoup. Parce que là, il y avait quand même un essai pour les Catalans. Et ça, bon, après, on le remarque moins parce que, étant donné que le jeu n'est pas bon, qu'on n'arrive pas à enchaîner, on a tendance à l'oublier, mais c'est très important. Comme la dernière fois, quand Ferriol, contre Saint-Hélène, il prend son ballon, il est aux 15 mètres, il y avait 8-0 pour les Dragons, il avance, il fait 15 mètres, il arrive au 25, il est poussé par trois Anglais, l'arbitre dit tenu, les Anglais le repoussent qu'aux 15 mètres à l'arrière. La Ferriol, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe, il se débarrasse du ballon parce que l'arbitre dit rien, et l'arbitre dit pénalité contre nous. Alors que là, s'il y avait une pénalité, elle était pour nous. Et ce qui a fait que là, il y a eu les quatre premiers points, le premier essai de Saint-Hélène là derrière. De suite après, Lima sort, et deuxième essai derrière. Voilà.
Olivier, d'ailleurs, vous qui êtes dans la tribune chaude bouillante.
Oui, juste une petite parenthèse. Tu sais qu'à la 13e heure, on ne fait pas de langue de bois. Non. Je vais tirer les oreilles à mon ami Louis qui est assis à côté de moi. Vous allez entendre crier. Ah, je l'ai entendu à Orange dire sur la petite cravate que prend Gossard à la fin, ça méritait au moins un coup franc, minimum. Louis à la télé, il m'a dit, mais non, il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Il a raison de ne pas siffler, Louis, voyons.
Et l'importance Louis. De ce geste, quand même, c'est que c'est Randy Chase, le demi d'ouverture quand même de Castelford, le petit gabarit, qui soi-disant n'était là que pour jouer, c'était un spot par rapport au Dragon catalan. Et Randy Chase quand même, lui, défensivement, respect aussi.
Non mais bon, on peut toujours argumenter sur des problèmes d'arbitrage lorsqu'on perd des matchs de ce style. Moi je pense que si Bell avait été à l'heure sur la passe, il n'y a pas de problème. Laisser au milieu des barres,
exact.
Il n'y a pas de souci.
Six points.
Si je sais plus qui, Raguen n'attend pas le rebond en face des poteaux à 3 mètres de la ligne, il est au milieu des barres, ça fait 6 points. On discuterait de ces problèmes, mais différemment. Parce qu'il ne faut quand même pas. Moi, je ne rends pas les arbitres. Je comprends les arbitres, mais si je prends les comptes rendus, et je pense que vous suivez tous l'actualité, l'an dernier, au Magic Weekend à Edimbourg, il y a Leeds qui voulait rejouer un match parce qu'on leur avait volé le match sur une décision d'arbitrage qui était... Bon, l'arbitrage, c'est tous les dimanches, tous les dirigeants, tous les supporters. Dans le match contre Melbourne, Signor a pris 1000 euros d'amende la semaine dernière parce qu'il a contesté les décisions. Donc, bon, le problème d'arbitrage, c'est un problème qui est... c'est un sujet qui appartient au jeu, comme le vent, comme la température, comme un joueur qui se trompe. Bon, il y a des jours, mais je ne pense pas très sincèrement, autant sur le jour de Saint-Hélène, l'expulsion d'Elima déséquilibre complètement la rencontre.
Exactement.
Dont on ne connaît pas l'issue. Je ne dis pas que les Dragons auraient gagné ou auraient perdu.
Ça démarrait bien, c'est tout.
Ça démarrait
la certitude,
bien pour les
Dragons,
mais Saint-Hélène, c'est une cylindrée et on a vu que même Castleford la semaine dernière, à 15 secondes de la mi-temps, on prend un essai alors qu'a priori, on était tous relativement tranquilles. Mm-hmm. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je pense que l'arbitrage ne doit pas être rendu coupable des problèmes collectifs, des problèmes de jeu ou des erreurs individuelles des Dragons catalans. Par contre, le problème de l'arbitrage, c'est un problème qui est récurrent, qui est systématique à tous les niveaux. Le corps arbitral, c'est quelque chose qui doit être respecté. Et moi, j'ai eu des incidents aussi avec les arbitres dans mon niveau de responsabilité. Mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, sur un match comme dimanche, la défaite est à imputer et de rendre un arbitre, quel qu'il soit, responsable de la défaite des Dragons. Je ne suis pas d'accord.
Sébastien, justement, est-ce que à l'issue de cette rencontre, les joueurs des Dragons catalans et l'encadrement se sont abattus sur l'arbitre ou en ont fait abstraction rapidement?
Non, et honnêtement, ils en ont fait.
Rien à voir avec le match de Saint-Hélène.
Non, abstraction rapidement, dans le sens où. Où on ne peut pas tenir l'arbitre responsable de la mauvaise performance des Dragons. d'un moment. Alors c'est vrai, il y a des moments où on a le sentiment d'injustice, on ressent une forme d'injustice. Là, ça serait quand même un peu de notre part facile et pas très honnête de dire on a perdu parce que l'arbitre a pas été bon. Je crois qu'il faut quand même faire face aux responsabilités, à nos responsabilités, avec le même arbitrage, un peu plus de discipline. Pas dans le respect des règles, mais plus de discipline par rapport au plan de jeu, avec des décisions un peu plus adaptées à certaines situations. Avec le même arbitre, on aurait gagné quoi.
Olivier, on vous a vu à la tribune gouache il y a trois semaines, calmer tout le monde par rapport à Monsieur Steve Ganson. Là, c'était un petit peu plus virulent par rapport à l'arbitre de touche José Pereira.
Je me suis levé moi-même pour aller le voir à Pereira. Je l'ai pas insulté, mais je lui dis s'il te faut des jumelles, le ballon qui est tombé en avant devant la tribune gouache à 5 mètres de nous, qui est dégueulé littéralement par le pilier de Castleford. Le ballon tombe 1m50 devant, il le reprend, lève le drapeau, fait quelque chose, parce que si tu es arbitre de touche, alors on nous dit à la fin du match, ah non mais je peux pas lever le drapeau, puisque l'arbitre du centre, il nous prenne pour des moins que rien, il n'écoutera pas. Pour des Français. Mais s'il lève le drapeau, son collègue anglais en face, quand Greg Muniz va mettre un coup de coude, il y a faute, hein, met un coup de coude dans le menton de son de joueur, il le lève le drapeau, non seulement il le lève, mais il rentre en courant sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez noté. Sur cet en avant, José Pereira, le minimum, il restait à sa place, il levait le drapeau. Et l'arbitre était obligé de venir le voir. Il y a le ballon, il y a en avant. Mais c'est important, parce que tu repars avec le ballon pour Sainte-Luce.
Hervé, il y a José Pereira, bien entendu, arbitre français, membre de la Fédération française, par rapport à M. Desplas et tout. Au niveau de l'arbitrage, est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce qu'il y a des retours? Sans parler de Thierry Alibert forcément, de José Pereira, de Mohamed Drissa. Est-ce qu'il y a cette sérénité et comment ça se passe?
Sérénité, oui, parce que bon, les arbitres ont l'habitude depuis très longtemps de travailler, bon, c'est sûr, dans un cercle fermé entre eux. Hein. Mais bon, écoutez, à partir du moment où Thierry Alibert a démontré toutes ses qualités, Mohamed Drissa aussi est prêt à suivre la lignée de Thierry. Donc, moi je vous dis l'arbitrage non, puisque la Super League fait quand même confiance à nos arbitres français. C'est vrai que peut-être pour aller un peu dans le sens de notre ami supporter, c'est vrai que peut-être à des moments il manque nos arbitres français, peut-être manquent un peu de confiance en eux et devraient peut-être s'exprimer un peu plus concrètement quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils risquaient si l'avant tout le monde a vu, tu lèves le drapeau et je pense que l'arbitre de champ ne va pas déjuger son arbitre de touche, il ne peut pas le faire. Hein.
C'est d'ailleurs Thierry Alibert qui va arbitrer les Dragons,
voilà,
dans deux jours.
Dans un jour,
hein, suivant le vendredi soir à 21h. Face aux Crusaders, René, sur le forum, l'arbitrage aussi, c'est un gros point noir.
C'est un gros point noir et c'est surtout aujourd'hui une réalité. Alors je sais que Louis, il arrondit les angles, Louis,
Non, j'ai les oreilles qui me font mal, mais moi je suis assez critique aussi quand il le faut au niveau de l'arbitrage. La seule chose qu'il faut peut-être discuter, et ça c'est un problème qui n'est pas nouveau chez moi, c'est que je considère que l'arbitrage doit être sujet à discussion dans le système sportif qui est le nôtre, au même titre que celui de la technique, des finances, etc. Or, ce que je regrette, c'est que les commissions d'arbitrage, qu'elles soient anglaises ou françaises, sont des domaines strictement fermés dans lesquels personne ne peut intervenir. Ça, je le déplore. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion. Lorsqu'il y a un entraîneur, par exemple, on discute Walters va s'exprimer. Bon, moi, je pense que le corps arbitral, dans son ensemble, et les règles sont faites pour qu'on n'en parle pas. Alors que moi, j'estime qu'à un moment donné, hors de la tension des matchs, dans des réunions de travail, il devrait y avoir des rencontres très officielles.
C'est ce qui est fait, Louis, en Australie, hein, voilà. Puisque les entraîneurs participent tous les ans.
Et public, surtout, qui définissent les primes, combien gagne un arbitre, pourquoi, quel est son plan de charge, etc. etc. Or, aujourd'hui, l'arbitrage, de par sa manière hermétique de fonctionner entre eux, devient suspicieux, alors que ça ne l'est pas. La seule chose, c'est que c'est fermé. Donc, à partir de là, tout le monde y va de son imagination sur des choses qui devraient être rendues publiques. Moi, je suis désolé, mais Bon, voilà, on devrait pouvoir parler sereinement d'une décision d'arbitrage à l'issue d'un match, comme on parle sereinement d'une balle manquée par un joueur ou du comportement d'un public, etc. Or, les règles de la Super League sont très claires. L'arbitrage, c'est un sujet dont on n'a pas le droit de discuter.
Voilà, Sébastien Milos.
C'est ça qu'il faut discuter.
Les Stuart Cummings, responsable des arbitres auprès de la RFL, Steve Ganson, sont venus il y a 6 semaines à Gilbert Brutus pour voir les joueurs, pour voir les entraîneurs. Les entraîneurs avaient d'ailleurs effectué un très très gros travail vidéo où j'avais vu sur le tableau tout au long de l'année tant de pénalités sifflées pour hors-jeu, tant pour plaquage ou ainsi de suite. Cette réunion qui visiblement avait été enrichissante des deux côtés, est-ce que le retour est déjà... est-ce que Stuart Cummings et Steve Ganson qui avaient prévu de revenir rapidement sans repasser par Perpignan, on en est où?
Bon ben normalement ils doivent revenir. Puisque bon,
discrètement, parce qu'il y en a qui vont nous attendre.
On le dira pas.
Pourquoi discrètement? Je suis pas du tout d'accord.
Pourquoi les responsables de l'arbitrage de la Super League viennent chez les Dragons? Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat public. Dans la mesure où ce qu'ils font n'a rien de malhonnête ni rien de secret, il faut, je pense qu'ils peuvent avoir des discussions confidentielles avec les Dragons. Ça me paraît tout à fait normal. Mais je pense qu'une séance publique sur le pourquoi, du comment, de certaines décisions, ça apporterait quand même quelque chose au débat, plutôt qu'une réunion secrète dont personne ne saura rien, ce qui va augmenter encore plus la suspicion.
C'est Sébastien, est-ce qu'il y a des possibilités, justement, que vous fassiez une demande auprès de la RFL, auprès de Stuart Cummings, pour qu'à l'issue de ces entretiens, en soirée, puisse y avoir des petits échanges?
Ah, bon, la demande, elle peut toujours, on peut toujours la faire, ça, il n'y a pas de souci. On peut expliquer de telle heure à telle heure entraînement avec les joueurs, vidéo, et après on peut toujours faire la demande en disant voilà, nous on a besoin d'un échange entre les personnes qui s'intéressent au jeu et vous. Moi je crois que oui, on peut la faire et je pense qu'ils accepteront, d'autant plus que... Ben, qu'il y a des explications à donner, il y a des, je pense qu'ils accepteront.
René,
on peut le faire.
Sur le forum.
Oui, alors, René, c'était endormi.
Je sais qu'il faut être correct avec nos amis. Il faut être correct avec nos amis anglais, on va l'être. Mais enfin, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai reçu aujourd'hui, non, il y a quelques jours déjà, j'ai reçu un document que je vais remettre à Sébastien. Ce document a été fait par un chercheur en économie, spécialiste dans l'étude des décisions individuelles, Louis Page. C'est un universitaire qui est à Cambridge, c'est un Français.
Cambridge.
Je sais pas si Sébastien t'a préparé cette étude.
Non, alors, non, voilà, non, honnêtement,
c'est bien
non.
Dommage parce que je voulais envoyer. Les destinataires ont été le président des arbitres.
Alors je pensais que c'était une étude. C'est une étude anglaise.
Une thèse qui a été soutenue
faite par un Français. Oui, faite par des universitaires dont il y a un Français.
Oui, oui. Alors j'ai reçu celle-là et j'ai reçu aussi avant une. Alors c'était pas une thèse, mais c'est une autre qui a été réalisée sur les relations sociales entre l'arbitrage et les personnes qui assistent au match. Ouais, j'ai reçu. D'accord.
Ouais.
Ok. Oui.
Ouais, bon, celle-ci je connais pas. Moi, celle que je. Celle que je voulais vous parler, voilà. D'abord, ce monsieur.
Je l'ai imprimé, je l'ai donné aux entraîneurs.
Voilà, c'est ça. Alors, cette étude, monsieur Page sera dans nos murs le 27 mars. Hein. Il se propose de venir vous la commenter. Hein, de venir vous la commenter, c'est quand même un document sérieux. Hein, de venir la commenter au Dragon. Bon, si c'est possible. Alors, moi voilà ce que je retiens. Et, écoutez bien quand même, hein, je retiens. Je pense que les gens du forum, quand même, vont être surpris. Alors, quelques phrases. Hein. Les Dragons gagnent plus de matchs quand l'arbitre est australien ou français, 67%, que quand il est anglais, 41%. Les Dragons gagnent plus souvent quand le match est diffusé sur Sky, les décisions arbitrales faisant l'objet d'un contrôle plus important, que quand le match est sur Sky ou la BBC. Les Dragons gagnent dans 58% des cas avec un arbitre anglais, alors que l'opposition est plus relevée. Les équipes anglaises, et ça c'est important, sont moins pénalisées quand elles jouent contre une équipe anglaise que quand elles jouent contre une équipe française, quand l'arbitre est anglais. Si ce n'est pas le cas, c'est l'arbitre n'est pas anglais. Alors, et pour terminer, ça quand même, ça se vérifie. Ils ont regardé des heures de match. Alors, ils ont fait la compa sur le Super 14 et sur la Super League. Ils ont fait deux études. Ils en ont fait deux.
C'est une comme comparer la pétanque et le jeu lyonnais.
Moi, je veux bien qu'il faut être politiquement correct avec les Anglais. Mais quand on la lit, bah, écoutez, moi, je suis désolé. Il n'y a pas de complot français contre les dragons, des arbitres. Mais il y a une préférence. Moi, je suis désolé. Les supporters aujourd'hui, eh ben, c'est le ressentiment qu'ils ont dans les tribunes. C'est qu'il y a une préférence. Voilà.
Mais la conclusion de ce mot, c'est que définitivement, il faut que je pende les burnes à un arbitre en haut des poteaux de Brutus. Ça coûtera peut-être cher au club une fois, mais peut-être après ils comprendront.
Louis, personnellement, je pense que je ne suis pas favorable au fait d'occulter ce débat sur l'arbitrage. Mais je pense que de ne parler que de l'arbitrage, on occulte quand même le problème important qui est les dragons dans leur ensemble. Et moi, je suis désolé, le problème de l'arbitrage, si je prends les journaux de 1934,
déjà,
il y avait un problème d'arbitrage. En 1950, il y en avait un. La grande tournée en 51, Picobert s'est fait expulser à Auckland parce que sur un problème d'arbitrage. Bescos en match international, en 60, dans les matchs internationaux, dans les tournées. Hervé, nous avons vécu un match contre la sélection d'Auckland avec deux ballons sur le terrain où on a pris un essai qui nous fait perdre le match. Il y a toujours eu, il a fallu qu'on s'excuse. L'arbitre d'un match a été radié par la fédération australienne tellement il avait été lamentable contre la France. Mais enfin, on l'a subi et je crois que la vie sportive de notre sport, que ce soit les Australiens, lorsqu'ils parlent des arbitres français, ils n'en veulent pas. Lorsque vous parlez des Néo-Zélandais, etc. Je crois qu'il ne faut pas occulter derrière cette affaire d'arbitrage, il ne faut pas occulter les problèmes quand même aujourd'hui, la situation globale des dragons catalans. Et à force de s'enferrer dans cette affaire, on ne parle quand même pas. Moi, je suis désolé, mais l'arbitre n'est pour rien si sur tous les coups d'envoi, sur tous les coups d'envoi qui sont faits régulièrement par l'équipe en face, le joueur qui reçoit la balle, ou il la tombe, ou il la manque, ou elle repart dans le camp de leur cerveau, il se fait jeter un touche. S'il se fait un touche à l'arbitre, il ne peut pas faire autre chose que donner une mêlée balle aux autres. C'est aussi simple que ça. Et allez, à un moment donné, je crois qu'il faut quand même recentrer le débat.
Alors, on va clore le sujet sur les dragons catalans et surtout sur l'arbitrage ici au Bistrot du Bœuf.
M'a fait rêver.
Canet, une petite page au niveau de l'alerte. On va parler du championnat français avant de revenir. Lors de la... René, mais Sébastien n'a pas nous quitter.
René.
Sébastien n'a pas nous quitter.
René,
on va parler un petit peu pendant 20-25 minutes de l'alerte avant de revenir sur Adam Mogue, sur le recrutement des dragons catalans. Hervé Guiraud, d'abord,
Bonsoir
Hervé Guiraud. Sur le tirage au sort de la coupe avec cette équipe de Limoux.
Tirage au sort de la coupe, oui, qui a eu lieu la semaine dernière à Avignon, avec la députée maire ex-ministre Marie-Josée Roche catalane. Enfin, à Avignon, ils ne disent pas Roche, ils disent Roque.
Roi.
Nous disons Roche, monsieur. Roche se dit en catalan et c'est Roi en PACA. Bon, le tirage, un derby au doigt, mais on s'attendait à trois équipes audoises. C'était un certain qu'il y aurait un derby au doigt. Donc, le week-end, le samedi 3 va avoir lieu à Montpellier au stade Sabaté, dans la première demi-finale entre Carpentras et le 13 Limoxin. Et le dimanche à Limoux, le lendemain, aura lieu le match la AS Carcassonne contre le football club Lézignan. Donc c'est toujours intéressant, vibrant de vivre à Limoux au stade de l'Aiguille un derby comme cela.
Louis, cette fin de championnat au niveau de l'alerte. On a vu la semaine dernière la belle victoire de Carpentras à Villeneuve. On pensait que Villeneuve avait déjà assis sa qualification. Le Saint-Estève 13 catalan et derrière, Carpentras et derrière, ça promet vraiment une grosse bataille sur cette cinquième place.
C'est une grosse bataille, d'autant plus que ce que j'ai vu dimanche à Limoux, encore une fois, problème d'arbitrage, puisque l'arbitre, en première mi-temps, il a été taxé.
Limoux-Carcassonne.
Limoux-Carcassonne, oui. Bon, j'ai vu un Limoux dominé. Carcassonne qui aurait pu saisir sa chance, tuer le match à un 2 contre 1 en face des poteaux. Limoux a joué 20 minutes à 12 sur deux expulsions temporaires de l'arbitre, ce qui a engendré, évidemment, la colère du public. Mais en deuxième mi-temps, alors que Limoux à 13 a refait son handicap, a fait une très belle prestation et a sorti, a battu Carcassonne, les Carcassonnais avaient la même réaction que Limoux à la mi-temps. Donc vous voyez, c'est pas qu'en l'air, ce n'est pas qu'en Super League qu'il y a des discussions sur l'arbitrage. Mais il n'en reste pas moins, là aussi sur cette rencontre, que avec les quelques techniciens qui étions un peu rassemblés autour de cette affaire, on a compris à la 14e ou 15e minute de la première mi-temps que Carcassonne venait de perdre le match, parce que quand à ce niveau de jeu, à 2 contre 1, à 5 mètres de but, le joueur il oublie ses partenaires qui sont à droite et à gauche, bon, à la fin du match, ça ne pardonne pas à un certain niveau de jeu. Donc voilà, ça c'est pour... Mais le championnat est bon. Bon, c'est dommage qu'il ait été perturbé par ses contretemps avec la neige, etc. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre et on va retrouver ce qu'on avait estimé dans notre émission de podcast, les 5 ou 6 là, qui se bagarrent avec Villeneuve et Carpentras qui se tirent la bourre.
Louis Bonnery, est-ce que c'est l'année de Limoux? On a vu Limoux l'an dernier échouer aux portes des finales, perdre les deux finales. Est-ce que ça peut être l'année des Blanquetiers?
Non, mais Limoux est toujours, depuis plusieurs années, en train d'essayer de passer ce cap qu'ils n'arrivent pas à passer. C'est possible, parce que je pense qu'ils en ont... je pense que l'an dernier, ils avaient les moyens de faire le doublé, Limoux.
Bien sûr.
C'était mon sentiment sur la saison régulière. Là, sur ce que j'ai vu, et sur ce qui se passe dans cette équipe de Limoux, elle a quand même des ressources. C'est une équipe qui, à Pia, en coupe, était menée 22-0, ou je ne sais quoi, et puis qui a réussi un peu contre tous les pronostics à revenir. C'est une équipe qui a fait un bon résultat en Angleterre en Challenge Cup, et c'est une équipe qui s'est sortie d'un match compliqué qui avait très mal débuté pour elle à Limoux, et qui finalement, en fin de match, il n'y a pas de débat. C'est une équipe, donc c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, qui, lorsqu'elle arrive à s'organiser dans son jeu, est redoutable.
Elle a peut-être gagné en maturité aussi.
Voilà. Non, est-ce que, alors, par contre, ça s'appuie sur des joueurs qui ont des comportements de très haut niveau. Je pense à Wood, qui, lorsqu'il perce, il a eu quand même la réaction de taper en direction de son ailier pour un pilier plein, voir que l'ailier à droite, il est tout seul, et que du pied droit, de l'extérieur du pied, il envoie le ballon. Et je dis quand même, ça, c'est, j'aurais aimé voir ça un peu chez les Dragons la veille. Ce que j'ai pas vu.
Non, mais... Génération Carnaval.
Voilà, oui, mais justement, Carnaval. Moi, je voudrais rebondir là-dessus et encourager tous ces joueurs d'élite. On voit de très très bons matchs en élite. Il faut arrêter de penser, parce que l'élite française, donner les moyens à l'élite française, le jour qu'on aura assez d'argent pour faire, on aura une élite qui sera fantastique. Mon père est dans les Bouches du Rhône. Il est allé voir Avignon et Carpentras. Mais il m'a dit, je vois de bons matchs de 13. Il faut arrêter de penser que le championnat élite n'est pas de monnaie, c'est un très bon niveau.
Sébastien Munoz, vous êtes forcément directeur sportif des Dragons catalans, mais il y a quand même 7, 8, 9, 10 joueurs stagiaires Dragons qui évoluent avec l'ex-UTC, Saint-Estève, 13 catalans. Le comportement de ces garçons?
Donc pour revenir sur la qualité du championnat, le dernier match moi que j'ai pu voir, c'était le quart de finale
Lézignan.
J'ai assisté aussi à un gros match avec de la part des jeunes, puisque vous me posiez la question des jeunes, qui ont livré quand même un match plein d'engagement, d'envie. Et c'est vrai qu'on a un petit groupe de jeunes comme ça qui progressent peu à peu. Faut pas brûler les étapes, mais qui peuvent postuler pour jouer en Super League.
Des jeunes qui manquent peut-être d'encadrement quand même au niveau de Saint-Estève 13 catalan, et ça manque peut-être de leader au niveau du 6 de devant.
Voilà, après c'est vrai que bon, ils sont encore alors bon, on peut pas leur demander tout, ils ont la jeunesse mais ils peuvent pas avoir l'expérience. Alors la qualité de la jeunesse on connaît un peu, il y a cette forme d'envie, d'enthousiasme, de volonté, mais c'est vrai que bon, parfois ils font des erreurs liées justement à cette qualité-là. Mais il y a des jeunes prometteurs. Moi, je vois des jeunes prometteurs et j'en vois aussi dans d'autres clubs. J'ai vu jouer Limoux cette année. Il y a des jeunes qui ont des qualités. Il y a à Carcassonne aussi. Je sais qu'ils travaillent bien. Carpentras, Avignon essayent de faire un boulot. Lézignan qui travaille bien aussi chez les jeunes. On voit l'équipe junior, il y a de la qualité. Et c'est vrai que ce soit les clubs de l'élite, Toulouse ou nous-mêmes les Dragons, on va avoir besoin de relève et très rapidement.
Alain Forge, oui. La Réunion, c'est fini. Maintenant, oui. Vous êtes à domicile. Plus facile de suivre l'air. Votre sentiment sur cette année?
Sur le football club lézignanais, où je me rends compte qu'un excellent joueur de l'époque passée des Dragons catalans, du 13 catalan, Aurélien Colony,
fait un gros boulot.
Preuve d'un bon entraînement à cette équipe de Lézignan qui pratique un très beau rugby. On évitera,
Voilà, on l'évitera plus tard.
Rapidement. Mais c'est vrai que l'équipe de Lézignan, il y avait la possibilité de finales consécutives. Il y a quand même cette assise difficile. Alain Forge de l'extérieur, Aurélien Colonie, capitaine, joueur. L'entraîneur devient joueur, le joueur devient capitaine, devient entraîneur.
Ça, c'est très difficile à réaliser.
Le challenge est important et puis le couperet peut être proche.
Ouais. Très bien. Moi, je suis content pour le football club lézignanais.
Et par contre, puisque tout à l'heure on parlait du public des Dragons, eh ben, un coup de chapeau au public audois, notamment Lézignan et Limoux, pour avoir vu les finales l'année dernière, c'est quelque chose de fantastique. Lézignan serait en Super League, je vous garantis qu'il y aurait une ambiance du tonnerre. Ils sont... et Limoux,
justement, justement, on parle d'une association, Hervé, une association audoise. Pour faire la Championship, on parle de Lézignan seul, parce que le projet quand même lézignanais qui visiblement tient la route pour faire tout seul la Championship, on en est où dans l'Aude ?
Ah, écoutez, moi je ne connais aucun des projets, j'ai... Ah non, mais c'est vrai, c'est sur le site de la fédération, mais bon, c'est...
Et le
c'est,
site de la fédé, c'est du
c'est
bon
notre,
hein,
c'est notre journaliste qui est...
Hervé, tu peux pas dire ça, alors écoute-toi.
Non,
sur
mais
le site
attendez.
De la fédération...
Attends, mettons les choses...
Il n'y a pas Internet,
Monsieur Montalab, mettons les choses au point. Le président de Carcassonne s'est exprimé comme il a le droit. Il a exposé un projet. Vous avez vu lendemain un démenti du club de Lézignan qui n'était pas du tout informé de ce projet. Et nous, la fédération, pour l'instant, nous ne menons aucun projet auprès de la National League One, c'est du propre chef des clubs. Donc, on ne peut pas interdire à un club d'avoir des objectifs, d'avoir des vues sur un championnat, d'avoir de l'ambition. Maintenant, je crois que tout le monde réalise un peu. J'ai eu un dirigeant cet après-midi de Lézignan qui doit aller dans 15 jours jouer la Coupe anglaise. À Widnes. Et ils s'aperçoivent que... on pensait que les billets d'avion, on les donnait à 1 euro. Et quand on fait le coût du déplacement, on se dit on va essayer de gagner une nuitée par là parce que ça coûte très cher. Donc des projets, tout le monde en a. Moi, je rêve le soir aussi. Je fais des championnats d'élite à 14-15 clubs en mettant une ville à gauche, Bordeaux, Marseille. J'ai même mis Poitiers dernièrement parce que le TGV le desservait naturellement. Non, mais après, derrière, bon, il y a la réalité du terrain. Et là, je pense qu'il y a heureusement le savoir-faire et la maîtrise des présidents de clubs de l'air qui ont beaucoup de mérite à amener tout cela. Alors on a tué la l'air, il n'y avait pas de championnat, pas assez de clubs, puis on s'aperçoit que finalement avec 9 clubs, je vois hier encore, il a fallu aller à la fédération refaire le calendrier pour avril parce que finalement, si encore il arrive une lame de fond, un peu de neige, on va avoir encore une journée qui va être décalée et on n'a plus de date. Alors heureusement, je me dis qu'il n'y avait pas 18 clubs. Hein.
Louis Bonnery, on a vu Bernard Gouache réaliser l'Union Sacrée Saint-Estève, Stress Catalan, qui en 2000 paraissait vraiment impossible. On voit le 13 Catalan faire la finale de la Coupe, se faire laminer. On voit Saint-Estève perdre contre Toulouse à Charletti. L'Union Sacrée réalisée par Bernard Gouache. Est-ce que l'Union Sacrée Lézignan, Carcassonne, Limoux peut être envisageable?
Ouais, je pense d'abord que le projet n'est pas le même parce que il y avait une place quand même à prendre en priorité en Super League.
Déjà.
Et celui qui avait... Il y en a deux qui avaient quand même bien anticipé là-dedans, c'était quand même Zalduendo et Gouache, qui avaient compris que, bon, donc l'antériorité dans le projet, c'est quand même ces deux dirigeants importants du rugby à 13 français à l'époque avec le
à l'époque où Villeneuve était déjà, était voilà, aussi dans
mais,
le coup.
Mais Villeneuve était déjà, connaissait au moment où le projet est arrivé à maturité, où il a fallu concrétiser ce projet, Villeneuve a commencé à avoir les difficultés internes.
Bien sûr.
Le départ des frères Soubiran à la tête du club, etc.
Ils avaient bon, que le côté sportif pour eux.
Voilà, voilà. Donc les leaders d'un projet de ce niveau sur Villeneuve n'existaient plus avec le départ de l'équipe qui avait connu l'embellie pour ce club-là. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, très objectivement, la France ne peut pas devenir une moitié de la Super League anglaise. C'est pas possible pour plusieurs raisons. Par contre, étudier la possibilité de une ou deux franchises sur le territoire français, ça peut se discuter.
Justement.
Par contre, ce qu'il faut quand même ce qu'il faut quand même essayer d'organiser, c'est quand même, on ne peut pas avoir une juxtaposition de projets qui n'ont aucun lien entre eux. Parce que je trouve que c'est quand même, d'abord, c'est une concurrence qui ne va servir personne, qui va créer plus de problèmes qu'elle ne va trouver de solutions. Donc je pense qu'il va falloir fédérer l'ensemble de ces projets, les coordonner de manière à ce qu'il y ait quand même une sorte de cohérence et de logique dans l'organisation sportive territoriale, de manière à ce qu'un joueur sache les niveaux qu'il pourra passer, en partant du principe que pour moi, le plus haut niveau, c'est l'équipe de France. Je suis désolé, c'est pas les Dragons. Je suis désolé, c'est le haut de la pyramide du rugby à 13 français. Ça reste l'équipe de France. Donc tout doit être organisé autour, que ce soit la Super League, la Ligue 1, l'ALER, les compétitions en dessous. Donc voilà, je pense que c'est ça la réflexion.
Justement, parce qu'on a parlé de tout ça.
Aujourd'hui, je crains, pardon, que chacun développe son propre projet. Donc à partir de là, ça va créer, à mon avis, une certaine confusion. Ça ne veut pas dire que les projets ne sont pas bons, mais bon, on ne va plus s'y retrouver. Un jeune, je vous prends l'exemple des cadets. Moi, je vis à l'heure actuelle un cadet qui est sur le territoire de la Ligue, qui est dans un club qui travaille 13 Catalans, Maison des Jeunes, enfin, etc. Bon, il a le projet de club, il a les sélections départementales, il a les sélections de régionales, Ligue. Il est dans un pôle, il y a le projet Ambition Dragon Catalan, il y a l'équipe de France, il y en a certains, ils sont cadets, mais on les fait jouer en junior. Attendez, le jeune, il ne comprend plus rien.
Il fait 40 matchs à l'année.
Il y a trop de discours techniques sur un même individu. Donc je pense que ça, c'est ça la réflexion qu'il faut avoir.
Justement, Sébastien Munoz, on a parlé des Dragons catalans, on a parlé des projets de championship ex-League One. On sait qu'au niveau des Dragons, il y a la possibilité d'avoir les duals, c'est-à-dire des joueurs qui puissent avoir une double licence, rejoindre Toulouse, l'antichambre des Dragons. Ça peut être cette équipe de Toulouse, Sébastien Munoz. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces duals au moment où Saint-Estève 13 catalan terminera sa saison?
Alors les duals, c'est la possibilité pour un club de Super League d'avoir des joueurs, mais selon des critères quand même bien précis. Il y a un critère d'âge,
moins de
23 ans, critère d'âge et de nombre, c'est-à-dire pas plus de 3 par club. Et donc tout club de Super League peut passer un dual avec des clubs de Ligue 1. Alors bon, Toulouse pour nous, parce que c'est le plus proche et c'est le plus facile à gérer, mais on pourrait le faire.
Ça porte sur combien de joueurs?
Avec Witness.
Ça porte sur combien de joueurs?
Maximum 3 par club.
On a déjà les noms au niveau des Dragons catalans sur les duals?
Non, alors pour l'instant non, parce que on devait avoir une réunion pour finaliser tout ça, mais vu le nombre de blessures, on s'aperçoit que les joueurs jeunes qui rentraient dans ce... dans les critères demandés, ils jouent avec les Dragons. Donc pour l'instant, c'est vrai que bon, on a un peu stoppé la discussion avec Toulouse, mais c'est vrai que c'est un projet qui ça mérite d'exister, parce que ça permet à des jeunes joueurs. Alors en Angleterre, le championnat n'est pas décalé, donc c'est plutôt pour permettre à un jeune joueur de jouer, de prendre de l'expérience, de le voir évoluer, parce qu'on forme, mais vu l'enjeu des résultats, des fois on a du mal à lancer un jeune. Bon, il y a de l'hésitation. Là, avec ce système de dual, on l'envoie en Ligue 1, on voit, c'est bon, ça s'est assimilé, hop, il revient. Donc c'est vrai que bon, les clubs de Super League, la plupart en ont fait, Warrington en a fait. Donc nous, à le faire, la logique veut qu'on le fasse avec Toulouse. Un, c'est plus près, puisque lorsque le joueur a la double licence, le dual, il n'est pas obligé de s'entraîner avec l'équipe. Par exemple, il peut continuer à s'entraîner avec les
Dragons catalans. Faire juste des matchs.
Le vendredi, aller faire l'entraînement
collectif,
jouer, échange avec les entraîneurs, il revient.
C'est plus logique, je trouve.
Voilà. Donc,
C'est plus logique parce qu'un joueur ne peut pas être soumis à deux rythmes de préparation physique en particulier.
Voilà, c'est ça. Donc, il fait le dernier entraînement ou les deux derniers collectifs. Et après, il repart avec son équipe. Donc, nous, avec Toulouse, c'est vrai qu'on va essayer de mettre en place cela. Et je pense que ça peut être un plus pour nos jeunes, d'autant plus que la saison quand la saison va s'arrêter pour les jeunes, si on veut les avoir à disposition dans de bonnes conditions,
exactement,
il faudra qu'ils aient des matchs. Allez. Parce qu'on s'aperçoit que rien ne remplace le match. Vous pouvez faire les entraînements que vous voulez.
René Montala sur Rugby Forum, parce que ça fait une semaine qu'on aurait dû faire l'émission. Je suppose que les questions doivent...
Disons que les interlocuteurs changent tous les jours, donc on a eu du mal à faire les questions.
Alors voilà. Bon, ce que je voulais dire, bon, je pense que Sébastien doit nous quitter, non?
Non, Sébastien.
Pas encore.
Allez, on va commencer.
J'ai reçu un texto, j'ai pas vu, donc on va faire comme
ça. Il y a Damien. Il y a Damien du 06, et oui, parce qu'il y a des gens qui regardent le rugby à 13 dans le 06 et à Nice. Alors, il nous a posé une question, enfin, il t'a posé une question. Quel est ton rôle en tant que conseiller du président, sachant que BG, Bernard Gouache, est un fin connaisseur de rugby et un homme d'affaires avisé? Ensuite, il repose dans la même question. Est-ce qu'on peut parler de désaffection du public au vu des résultats? Parce qu'effectivement, la chambrée de samedi dernier n'était pas exceptionnelle. Ou alors, à cause de la tarification des matchs? Bon, voilà, je crois, moi, bien fait. Alors, première question, le conseiller du président.
Alors, en fait, moi, j'avais émis le souhait en fin de saison dernière de prendre un peu de recul par rapport... parce que dès le départ, quand je me suis engagé dans le projet à la base UTC, il y a 8 ans... Alors ça, c'est un avis très personnel. Je pense que voilà, il y a des cycles et qu'à un moment, il faut savoir, quels que soient les résultats, changer un peu de mission, parce que moi, je pense que la motivation peut à un moment diminuer. Et moi, je reste persuadé qu'on marche par cycle. Et bon, ma première idée, dans les expériences que j'ai pu avoir avant, des cycles de 3-5 ans, je trouvais que c'était pas mal. Bon, alors j'ai continué ma mission parce que j'en avais envie et que l'on souhaitait que le club souhaitait que je, voilà, c'est ça. Mais j'avais quand même le désir de prendre un peu de recul, surtout concernant la partie administrative de mon poste. Donc j'ai expliqué en fin de saison que moi, je voulais bien continuer à être présent aux entraînements, à apporter le peu d'expérience que j'ai pu accumuler sur les années de Super League et même d'élite. Mais je voulais me décharger de cette partie administrative pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est pas la partie qui me plaît le plus. Bon, je vous dis franchement, hein, c'est pas la partie qui me plaît le plus. Et en plus de ça, j'avais envie de me rapprocher de retrouver un peu plus le terrain plus régulièrement. La deuxième chose, j'avais envie aussi, il y a plusieurs questions en fin d'année, je trouve que l'équipe, on a une équipe qui va bientôt devenir vieillissante, on a des joueurs qui arrivent, qui vont arriver en fin de parcours, et puis c'est comme ça, et j'ai peur qu'on n'ait pas les jeunes Français pour les remplacer. Et donc j'avais mis le souhait de m'investir un peu plus sur Ambition Dragon, donner un coup de main à cette association et même aux clubs qui me sollicitent, si ça les intéresse, d'aller le mercredi après-midi dans les clubs donner un coup de main, parce que je crois qu'il faut préparer cette relève, car on pourrait vite être surpris, 40%, 50%, 40% de l'équipe dans 2-3 ans ne jouera plus. Et il va falloir mettre des joueurs sur le terrain. Donc,
c'est bon de le savoir, Olivier. Tu vois, puisque justement à IE-sur-Tête aujourd'hui, qui est une grosse école de rugby, on me posait la question à savoir si les Dragons ne pouvaient pas détacher des fois une ou deux personnes et des Dragons pour venir un peu. Et les jeunes, forcément, il y a quelqu'un de l'encadrement des Dragons qui vient et les jeunes sont deux fois plus motivés. Donc,
alors oui, non, c'est vraiment avec plaisir. Bon, après, peu à peu, bon, mardi prochain, par exemple, mercredi prochain, j'avais rien. Il y a un club qui m'a sollicité, donc je vais y aller. Mais c'est vrai que j'avais envie, tout en continuant à aider les Dragons, j'avais envie aussi de retourner aux jeunes et surtout de préparer, d'aider, parce que d'autres personnes le font très bien, hein, mais d'aider aussi à préparer un peu cette relève. Donc voilà, surtout c'est le retrait par rapport à tout ce qui touche à l'administratif.
Et c'est vrai qu'on voit Sébastien Munoz encore plus présent maintenant pendant les entraînements.
Voilà, parce que à un moment, je restais dans le bureau, quoi. Le bureau, les gérer, coup de fil, les lettres, la RFL. Bah, et bon, donc, on a besoin d'être auprès du terrain.
Ouais. René, une autre question.
Donc Sébastien, je vois le visage d'Hervé Giraud qui est content parce que finalement tu prendras pas sa place. À la fédération, lui qui est administratif de la fédération.
C'est de l'humour de Saint-Cyprien.
Il y a une autre question.
René, une autre question.
Que Nico de Lille, et oui, encore une fois, ben Nico de Lille, souhaite te poser. Il veut savoir quel joueur tu aimerais voir arriver un jour au Dragon catalan.
Alors, honnêtement, moi j'aimerais bien voir arriver le petit Margalet, on parlait d'hier. J'aimerais voir arriver.
Il paraît certainement d'une pointure internationale. Hein.
Mais, et le petit Margueles sera une pointure internationale.
Honnêtement,
c'est une bonne réponse.
Mon souhait, ça serait de voir arriver des jeunes Français qui ont travaillé, qui.
Très bonne réponse. Ça s'applaudit, messieurs.
Alors, il n'y a pas que le petit Margueles. Il y en a à Lézignan. Il y a un petit junior première année, Cardas, si je ne me trompe pas, qui a des qualités.
Ça va leur faire plaisir parce qu'ils écoutent l'émission, hein, tous ces jeunes.
Non, mais ce petit jeune, je vois le petit Bousquet aussi qui travaille, le pilier Anceli aussi qui est jeune. Hein. J'ai vu, l'an dernier, j'ai vu jouer plusieurs fois les cadets de Lézignan. Moi, je trouve qu'il y avait une belle équipe. Donc, c'est honnêtement les joueurs que j'aimerais voir arriver, c'est ceux-là, quoi. À Limoux, il y a le petit Bourrel.
Allez, sinon, Sébastien, on te donne un gros chèque. Alors, on te dit demain, tu vas en Australie, tu prends qui?
Après avoir pris tous ces jeunes,
est parti.
Après avoir pris tous ces jeunes.
Après avoir,
on est bien d'accord. On est bien d'accord.
Bird peut-être parce qu'il connaît le club, donc ça sera plus facile. Mais après, moi, je prendrai un joueur, un meneur d'hommes, un joueur qui peut avoir un impact sur l'état d'esprit, un joueur,
Allez, on a compris que tu veux les Français. Tu as tout à fait raison.
Louis, t'en as un à nous proposer?
Non, moi j'ai rien à proposer, mais je suis un peu, je suis content de t'entendre dire ça parce que lorsque la Ligue, quand même, nos cadets ont été champions de France cette semaine, la sélection de la Ligue, vainqueur des Interligues, plus de 20 points à un pôle de province. Bon, c'est déjà pas mal, mais lorsque on a voulu faire une convention avec vous, vous n'avez pas voulu, les Dragons. Lorsqu'on a voulu faire une entente, mettre l'effectif de la Ligue, de l'élite cadet de la Ligue, dont tous ces joueurs dont tu parles, que tu aimerais bien les voir, ben, on a reçu une fin de non-recevoir. Ça veut dire que bon, il ne faudrait pas que toi aussi tu installes un système parallèle. Au lieu d'aller voir les clubs, il faudrait peut-être s'intéresser au comité ou à la Ligue, qui eux-mêmes créent des sélections, et ces sélections, elles ont besoin d'encadrement. Je ne dis pas que celui qui y est serait lui aussi très satisfait de voir qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Comme ça, déjà, il y a une étape qui serait franchie entre le club, le département et la région. Voilà, alors moi, j'avais impulsé, d'ailleurs toi-même samedi, tu m'as dit, tu vois Louis, tes idées... Les Benjamins à 13, il y a 3 ans, ça avait été une affaire d'État lorsqu'on avait fait un match là. Bon, maintenant, vous l'avez instauré d'une manière officielle, bon, très bien, ça prouve que les idées. Mais moi, je suis quand même, je comprends pas pourquoi la Ligue, qui est l'entité régionale qui est sur le territoire des Dragons, qui veut mettre à disposition des Dragons, à sa disposition, qui veut travailler avec les Dragons concernant son élite régionale, on a reçu une fin de non-recevoir.
Allez Sébastien, une petite réaction avant de repartir sur deux questions René, et puis on retournera sur les Dragons catalans.
Alors, personnellement, c'est pas évident pour moi de répondre à cette question, dans le sens où c'est pas moi qui ai donné cette réponse-là.
C'est pas grave, c'est pas
non,
grave.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire, je peux pas parler pour les autres. Après, ce qui se passe à la Ligue ou dans les comités, en tout cas, j'y porte une attention, puisque je m'y intéresse je sais que il y a des jeunes de qualité dans la ligue, que ce soit dans le comité. Après, c'est vrai que par rapport à ce projet-là, je peux pas y répondre dans le sens où j'ai pas été sollicité et j'ai pas été contacté. Mais malgré tout, je suis toujours à la disposition, que ce soit du comité ou de la ligue. J'ai même prêté les maillots du collège d'Espira au comité ce week-end pour qu'ils aient deux jeux de maillots
de Dragon Castelfort le long de la touche parmi cette petite triangulaire entre les jeunes de Notre-Dame-des-Anges, du Roussillon,
qui ont gagné le tournoi,
et d'Halifax. René, allez, deux questions avant de repartir et de rebondir sur les Dragons, sur l'histoire de Mog, sur...
Oui. Bruno, juste parce que sur le forum, nous avions annoncé la venue des 3 stagiaires. Oui. Alors juste parce que tu m'as rappelé, tu vas le rappeler au micro, pourquoi les 3 stagiaires ne sont pas là ce soir? Voilà.
Ben Sébastien va nous répondre, mieux que moi.
Oui, la réponse est simple, c'est que vu les blessés en ce moment et les 2 derniers de hier,
Cy Walker
qui sont incertains pour le match, Donc ça, c'est fait une entorse à la cheville, et Walker, une blessure au mollet. Il y a de fortes chances que ces trois joueurs jouent ce week-end. Donc alors, je peux pas vous dire lesquels, parce qu'on attendra demain matin pour faire le point avec les joueurs blessés. Mais si c'est le cas, s'il y a deux blessés, au moins deux de ces trois-là vont jouer. Et après, à des positions, vu leur similitude de poste, par exemple, je prends Gigot, Barthaud, un des deux va sûrement jouer. David Gouache peut jouer. On le saura demain matin, mais demain matin, après l'entraînement, il pourrait partir et jouer au Celtic.
Chez les Crusaders.
Les membres de la 13e heure, quand même, respectent tout à fait. On ne peut pas obliger des joueurs à venir alors qu'ils s'en vont le lendemain très tôt.
Et Sébastien Munoz, quand même, qui a passé la journée dans le bus, qui a accompagné ses élèves, ses scolaires, pendant un tournoi UGEL et USS.
Voilà, c'est ça, oui, les deux. Ouais.
A quand même, au sortir du bus, nous a rejoints pour quand même excuser et remplacer ses entraîneurs.
On te remercie encore. Et puis on a eu Laurent aussi en début de semaine qui m'a dit qu'il était en retard sur la préparation des Crusaders. Il m'a dit on ne se défile pas avec Kevin. Kevin veut Walter.
Quitte à faire la 13e heure chez eux. On la fera chez Kevin la prochaine.
Je te remercie d'être venu ce soir.
Non, ça avait plaisir.
Une question.
Les questions, on va changer un petit peu. On va rebondir un petit peu sur Hervé Guiraud parce qu'il y a plein de questions pour Hervé Guiraud et pour Louis aussi. Ne t'inquiète pas, Louis aussi. Alors il y en a une qui revient tout le temps, Hervé. Il va falloir éviter d'avoir la langue de bois parce que on nous a assez reproché l'autre fois. On nous demande où en est le projet d'une section 13 au Stade français. Voilà, ça c'est la première des questions. Et une autre question comme ça, hein, on va faire un emballage. Aurons-nous une poule en France lors de la Coupe du Monde 2013? C'est peut-être un peu tôt pour y répondre, mais enfin, en réfléchissant un peu, peut-être qu'il va y arriver. Et est-ce que les matchs, où se joueront les matchs d'équipe de France pour le championnat d'Europe à l'automne? Allez, ça c'est pour Hervé.
C'est Guiraud, trois questions pour Hervé.
Vous avez deux minutes, le temps que vous étiez parti.
C'est le projet du Stade français.
Je crois que je m'étais expliqué il y a trois semaines. J'avais dit le projet Super League à Paris, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des projets Paris, Lézignané et Audouard. Le projet parisien est dans des garçons qui sont intéressés, ils œuvrent et ils avancent sur un projet. Donc à partir de là, moi le projet ne passera pas par la fédération, on appuie derrière, mais c'est tout. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il ne passera pas par la fédération, tout d'autant qu'ils montent, ils iront en Super League, mais on avait cru comprendre. Il devrait d'abord passer mais par l'élite.
Le trésiste croit toujours comprendre, toujours. Il comprend souvent mal et souvent il comprend ce qu'il a envie de croire. C'est surtout ça. Dans le projet parisien, il y a des personnes qui se sont manifestées, on les connaît, qui sont en train de travailler pour une accession à la franchise de Super League en 2012. Et voilà, donc c'est tout.
Tu as des noms à nous donner, on les connaît.
Vous les connaissez, vous les avez vus en photo dernièrement, donc vous savez qui. C'est le Stade français, tout ça. Mais je ne vais pas tous les 15 jours vous reparler de ça puisque j'ai pas autre chose à développer quoi.
Allez René.
Bon, allez, on passe. Donc vous me reposerez René dans 15 jours. Vous me reposerez.
Dans 15 jours, je reposerai la question.
Dans 15 jours, vous me reposerez la question.
Elle était posée par monsieur Taroux Eric.
Alors
il pose une question. Où se joueront les matchs de l'équipe de France?
Alors là aussi, où se joueront les matchs de l'équipe de France? Déjà, nous ne connaissons officiellement les dates que depuis une semaine. Donc les choses ne sont pas faciles à faire après. Il faut savoir les disponibilité de terrain, il faut se réunir à un comité, savoir où on souhaite le jouer, qui est intéressé, il faut rencontrer, c'est le sport français, les présidents de région, les conseils généraux, et vous savez qu'en ce moment, c'est pas
jusqu'à trop... Dimanche.
Voilà, jusqu'à dimanche, voilà, les gens sont sur un fauteuil. Donc, je crois là aussi, il faut de la patience, on sait à peu près où nous allons les faire, les courriers ont été lancés, nous sommes allés voir des personnes qui sont très intéressées par une Coupe d'Europe, bien sûr, l'affiche est alléchante. Mais de là, il faut, comme je le disais il y a 15 jours, un peu de patience. Il ne faut pas croire qu'on reste à la maison les bras croisés. Nous travaillons, mais au bout de... L'administration française est ainsi faite, le sport est ainsi fait.
Et Montala est aussi fait.
Alors Montala est là pour poser les questions, mais au contraire. Troisième question, vous m'avez demandé si nous aurions une Coupe en 2013. Là aussi, le bord s'est réuni la semaine dernière. On a connu les dates date la Coupe d'Europe. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, je vous dise, en 2013, si nous allons avoir, nous avons demandé, puisque ça va se jouer en Europe, bien sûr, nous sommes intéressés. Mais bon, il faut aussi montrer que de quoi nous sommes capables. On l'a montré avec le Four Nations qu'on pouvait mobiliser du public. On nous donne quand même une Coupe d'Europe organisée. On va encore voir. Les gens vont voir de quoi la Fédération française est capable de faire. Et là-dessus, je ne me fais aucun souci. Ce sera un succès populaire. Parce que ce que je vous disais, quand vous rencontrez les gens, quand vous proposez l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, bon, ce sont des affiches intéressantes. Ce sont des nations d'ovale. Donc, tout est lancé. Mais, M. Tarrou, c'est les forumistes, soyez patients.
Allez, René, une dernière question pour Loubonnerie avant de rebondir sur le dragon. Loubonnerie, René Montala.
Que pensez-vous des chances de Montpellier d'accéder à Ligue 1 d'ici 3 ans ? Voilà.
Ah, les chances sont réelles. Ça, c'est indiscutable. Tout le monde a sa chance. Voilà. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que sur Montpellier, il y ait une petite pyramide locale qui s'instaure. Et on ne peut pas avoir un club d'élite qui est coupé, qui n'a pas de base et qui est coupé de toute relation avec tout le secteur du développement. Donc nous avons réorganisé le comité de l'Hérault. Nous avons la création d'un club à Béziers et d'un autre club sur Montpellier. L'équipe de Montpellier a une équipe réserve de fédéraux et de juniors. Ils développent des jeunes. Mais bon, un club d'élite ne peut pas vivre avec 100 licenciés jeunes en dessous. Donc si l'équipe de Montpellier a un projet, il faut que ce soit aussi un projet de développement du rugby à 13 sur la région, sur la ville de Montpellier, sur le département de l'Hérault et sur les autres départements, autres que l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Si l'équipe de Montpellier doit devenir une équipe de recrutement extérieur qui ne s'appuie sur aucune base locale, bon, elle pourra figurer en élite, mais je pense que ce sera un projet qui n'aura pas d'avenir dans la mesure où il faut quand même, on le voit pour les Dragons, on le voit pour Carcassonne, on le voit pour les Ignans, on le voit pour Limoux, oui. C'est l'assise populaire et locale qui fait la force d'un club.
Allez, on a fait cette petite parenthèse, belle parenthèse, au niveau de l'ALER, au niveau de la Ligue 1, la Championship, au niveau un petit peu de l'équipe de France, du comité de la Ligue et des jeunes. Allez, on va finir, il nous reste un petit quart d'heure là. On va forcément revenir sur l'histoire, on va pas parler d'affaires, Adam Mogg, car pour moi c'est triste quand même de voir un joueur comme Adam Mogg quitter les Dragons catalans d'autant. Mais voilà, on va rester sur le super souvenir de ce garçon, notamment le fait de l'avoir vu aux entraînements, pendant les tests physiques. Adam Mogg est toujours le premier, toujours devant, toujours attiré les jeunes. Seulement, le problème, c'est qu'il a été jeté un petit peu au feu, jeté en pâture. La cible numéro 1 de tout le monde, René ne me contredira pas, c'était Adam Mogg à l'ouverture sur les forumistes. On a beaucoup vu de gens tirer à bouler sur Adam Mogg. Sébastien, déjà, on en est où au niveau de la situation?
Non, Bruno, moi je suis pas d'accord, attendez, sur le forum,
pas d'accord.
Il y a énormément de messages de sympathie et de remerciements.
Maintenant qu'Adam Mogg a annoncé qu'il partait.
Tout à fait.
Qu'il était là, il se faisait allumer le parfum.
Ça va parler. Il y a énormément de messages de sympathie sur Adam Mogg. Évidemment, aujourd'hui, parce qu'il s'en va. Mais les gens le remercient pour ce qu'il a fait pour les Dragons. Parce que vraiment, c'est encore une fois pour moi, c'est un des meilleurs joueurs que nous avons.
Le problème, c'est que sur les forums, c'est maintenant qu'il a annoncé son départ que tout le monde le remercie. Mais ça fait un an que tout le monde lui crache dessus. Sébastien Munoz, la situation d'Adam Mogg avec les Dragons catalans.
Ben, je crois que dans le début de l'exposé, on trouve un peu les réponses à la situation d'aujourd'hui. Adam Mogg, comme on peut le voir lors des entraînements physiques, c'est un grand compétiteur. C'est vraiment un grand compétiteur. Il est toujours devant. Il donne le meilleur de lui-même. On le voit même à la récup, à l'hôtel. Dans les piscines, lorsqu'on rentre des matchs, il fait la récup, il reste plus longtemps que les autres. C'est un compétiteur, c'est un joueur qui aime la compétition, qui aime les performances. On peut le voir des fois même sur l'aspect défensif, quand il sent que le match échappe, il met son énergie dans la défense, on va le voir défendre un peu partout. Et c'est un compétiteur, et il est vrai que je pense que la blessure qu'il a en ce moment au genou, l'empêche un peu d'être le compétiteur qu'il est et font que Adam Mogg moralement est touché.
Vous parlez de la fin d'un cycle, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle deux ans et demi, trois ans chez les Dragons catalans. Ah oui. Et quelques mois, la fête d'un cycle. Trois au niveau ans. Familial aussi, les enfants, la femme qui a envie de retourner. Ah donc c'est un tout, une petite arthrose au genou. Et...
Ben oui, voilà, c'est un cycle. Adam Mock, ça fait 3 ans et 5 mois ou 4 mois. Bon, il a quand même, dès sa première année, été...
C'est la finale à Wembley, avec Stacey Jones.
Et dans l'équipe
type de la, l'équipe de rêve de la Super League, quand même. 2007.
Donc, c'est vrai que, après, centre, équipe type de la Super League, centre, et bon, évidemment, quand ils font leur classement, il y a c'est les deux meilleurs centres qui sont élus, puisqu'il y a deux places, et lui avait fini premier. Donc c'est quand même bon, c'est un grand joueur qui quand même l'an dernier, même si c'est vrai, a fait l'objet parfois de critiques. Je crois que sur les derniers matchs, il a montré quand même qu'il était, il était là, il était capable d'apporter quelque chose à l'équipe. Et ça va avec l'esprit de compétition.
C'est quand même
sur ces matchs-là, il a su. C'est un peu aussi ça la qualité des grands joueurs. C'est sur les matchs importants, il a su apporter à l'équipe. Un peu cet esprit de compétition, c'est un mauvais perdant.
Olivier, c'est quand même vous qui êtes supporter, c'est quand même dommage que vous qui avez réservé des accueils chaleureux à Chan, à Stacey Jones, à Jason Crocker, à tous ces garçons, à Justin Murphy quand ils ont quitté le cocon des Dragons catalans, c'est quand même dommage qu'un garçon comme Madame Mogg n'ait pas eu cet accueil, ce pot de départ.
C'est tout à fait vrai. Juste une petite parenthèse, ce matin Bernard Young a eu un appel à 11h exactement de John Wilson. Ils sont restés 2 heures au téléphone. 11h30, c'est le téléphone, c'est Alex Chan qui a appelé. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il se passe chez nos Dragons? Cette équipe est fabuleuse, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils ne comprennent pas. Ils l'ont appelé à 2 heures d'intervalle le même jour, c'est fort quand même.
Oui, ils avaient
parce qu'ils ont vu le départ.
Dragons de cœur.
Donc, et je reconnais que moi-même, après le match de Toulouse, après quelques matchs, je me disais, ben Mogg, il a voulu se positionner à l'ouverture. Et ben, comme un supporter un peu bête, voilà, je peux le dire. Eh bien, débrouille-toi, tu veux les clés de la maison, eh bien, débrouille-toi. Mais cet après-midi, j'ai regardé la demi-finale à Warrington, que j'ai enregistré sur DVD.
Contre Wigan.
Eh bien, je peux vous dire que des matchs, et pas que celui-là, il nous en a fait gagner beaucoup. Et que ce monsieur, c'est un grand, grand, grand joueur. Ça, il faut surtout pas l'oublier. Et que pour moi, quand j'ai vu que Bernard Gouache disait ce matin qu'il ferait pas long feu à Perpignan, parce que bon, je pense qu'il veut partir assez vite, puisque je pense que les Canberra veulent le recruter. C'est vrai que ça fait quelque chose. Quand on pense à ce qu'il a apporté au club, ça restera un des plus grands joueurs australiens.
C'est quand même dommage que tout le monde se réveille un petit peu après. Louis Bonnoury, quel vrai sentiment sur ces 3 ans d'Adamo, quand même, vous qui l'avez côtoyé.
Moi, je me souviens quand il a été sélectionné pour la première fois à les State of Origin.
Allez, là.
Puisque avec Rodolphe.
2 matchs et 3 essais.
On commentait ce match et la presse australienne, en dehors de Meninga, c'est Meninga qui l'a sélectionné, avait dit Adam Wu. Qui c'est cet Adam?
Il venait d'ailleurs de signer au Dragon.
Voilà, c'était un inconnu notoire dans le système qui a quand même joué un State of Origin. Et à partir de là, ça a été pour lui la porte ouverte vers une autre carrière. Et je pense qu'il a été... je ne discute pas ses performances sportives, ce n'est pas du tout ça. Mais je crois qu'il a été... Il n'a pas réussi au Dragon à trouver le poste qui aurait dû être le sien en permanence. Il a été quand même ballotté, ouverture, centre, ailier. Bon, donc c'est un garçon qui avait eu, quand il est arrivé, une certaine stabilité dans un poste précis. Bon, et là, il avait pu quand même développer. Et en fait, ça rejoint ce que dit Sébastien. À un moment donné, il allait partout, mais en définitive, il était peut-être nulle part.
L'électron libre.
Voilà.
L'électron libre offensif.
Moi personnellement, je pense que ce garçon a toujours été au service voilà, du club. Justement, vu ses énormes qualités, il est allé là où on lui a demandé d'aller. Lorsque j'entends Olivier tout à l'heure, les supporters qui ont réagi comme ça en disant tu veux les clés du camion, tu veux jouer à l'ouverture, attendez, c'est pas Adam Mock qui a décidé je veux être le 6. C'est que quand même, il y a des entraîneurs, il y a des techniciens qui lui ont dit pour les besoins de la cause, du club, tu vas jouer là. C'est pas Adam Mock. Alors après, on peut.
Mais c'est vrai qu'à l'époque où il est quand même passé de l'ouverture, il y avait un certain Stacey Jones à la mêlée.
Oui, tout à fait. Oui. Et l'année dernière, quand il a brillé, il faut pas oublier qu'il avait un Greg Bird aussi.
Voilà, il avait passé déjà. Oui, mais bon, ça fait partie. C'est la complémentarité du rugby. C'est un sport collectif. Donc, au bout d'un moment, justement, la qualité de ces hommes s'ajoute et ça fait un bloc, ça fait l'homogénéité et une grande équipe. Pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, le départ de Murphy de Crocker, de Stécie, avec. Bon, je pense que le départ modeste, enfin, le départ pas dans l'anonymat, mais cela correspond aussi à la nature de cet homme. Hein. Moi aussi, je l'ai côtoyé pendant 3 ans en tant que journaliste de bande de terrain. C'est un des rares qui ne venait pas. Même si on allait à lui, on le sentait toujours sur la défensive. C'est un homme, voilà, justement, très gentil, très discret. Mais c'est justement ça, ce qui fait aussi sa qualité. Mais après, aux entraînements, il était toujours devant. Puis moi, je retiendrai justement cet homme à la disponibilité du club. Je joue à l'arrière, je joue à l'aile, je joue centre. Je prends les clés du camion pour être demi d'ouverture. Attendez, c'est pas donné à tout le monde, justement. C'est l'utility player. Et c'est vraiment la qualité d'Adam Morg. Alors maintenant, il va partir. Moi, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, Adam.
Tout à fait.
Et après, bon, si c'est pas un garçon expansif. Bon,
il va énormément
manquer. Alain Forge.
Moi, j'ai trouvé que c'est un excellent joueur. Mais je voudrais demander à notre ami Munoz si vraiment il a voulu à tout prix s'imposer à ce poste d'ouvreur, pour lequel je pense qu'il n'était pas tout à fait fait. Je le voyais plutôt. Mais dis-nous si vraiment vous voulez s'imposer par rapport aux autres, par rapport. C'est ce que on voudrait savoir parce que c'est ça que se pose.
Non. Voilà. En fait, là je peux répondre tranquillement. Il n'a pas cherché à s'imposer. C'est Mick Potter qui. Je vais citer Mick Potter. Il pense encore, que Adam Morg, chaque fois qu'il a le ballon dans les mains, il est dangereux. Et il trouvait dommage qu'il n'ait pas plus souvent dans les mains, en étant ailier, centre. Et il pense qu'en demi d'ouverture, il a plus souvent, il le pense toujours, il me l'a redit encore, c'est la théorie de Mick Potter. Et il dit, plus il a le ballon dans les mains, plus c'est dangereux pour les adversaires. Voilà la théorie de Mick Potter. Et il y croit. Donc pour lui, voilà pourquoi, peu à peu, il a fini ouverture.
Allez, on va revenir maintenant. Adam Morg, on le sait, est parti, a quitté les Dragons catalans. Clint Greenshield est prêté pour 3 mois. Sébastien Munoz, on sait que toutes les pistes ont été activées en Angleterre, beaucoup en Australie. Kevin Walters s'appelait un petit peu tous les agents. Aujourd'hui, ça parle de Marc Gasnier qui, fin avril, va finir sa saison avec le Stade français, capable de faire une pige de luxe. À 13, info ou intox?
Alors normalement, Marc Gasnier devrait arriver dès dimanche à Perpignan. Non, c'est une blague.
Oh là là, j'ai le cœur qui s'est arrêté. Le cœur s'est arrêté, mais il faut pas nous faire ça, Sébastien.
Il y a aucun contact.
Olivier, j'ai pris son portable pour appeler Bernard Young. Bernard,
ça y est, c'est parti. L'information est partie, c'est trop tard.
Non, Marc Gasnier, il n'y a pas de contact entre Marc Gasnier et les Dragons catalans. Bon, il connaît le club, il est venu à Perpignan quand Rice était là. Ouais, quand Rice était là, puisque c'était un ami à Rice.
Il est venu avec les scolaires et nous avions organisé le match à Limoux. Il était avec les scolaires kangourous. Donc,
Marc Gasnier, évidemment, si Marc Gasnier. Veut venir et qu'il y avait une possibilité, on prendrait la peine de l'étudier. Ça ne veut pas dire qu'il viendrait, mais on prendrait la peine de l'étudier. Mais pour l'instant, il n'y a aucun contact. Il est lié au Stade français. Il a encore une fin de saison.
Là, on parle d'un joker de luxe, d'un pigiste de luxe, mais il faut quand même quelqu'un pour conduire le navire. Il faut quand même quelqu'un sur deux ans. Autre manche, aux antipodes, ça donne quoi?
Alors déjà, la première chose, c'est par rapport à la blessure de Greenshield. On n'a pas le droit de prendre vu le type de blessure, on n'a pas le droit à un joker.
D'accord.
Donc ça, la RFL n'accepterait pas une demande de joker juste pour 3 mois, par exemple, ou 4. Ça, c'est clair.
Donc, Greenshield, on peut le sortir de la liste des 25 ou pas?
Alors, on peut le sortir, mais au niveau, par exemple, de la salary cap, c'est pas parce qu'on sort un joueur de la liste des 25 qu'il ne compte plus dans la salle. Il est toujours dans les effectifs. Et voilà. Et donc, il compte dans la salary cap. Donc, on ne pourrait pas le sortir. Prendre un autre joueur et même un autre, parce que bon, la salary cap ça se joue toujours elle exploserait et puis bon, le club c'est pas l'idée du club quoi. Donc la seule solution
éventuelle, ça serait de remplacer Adam Mogg. Voilà, de remplacer Adam Mogg. Ou de ne pas le remplacer. Parce que bon, les trois jeunes n'ont pas pu venir. Ils vont jouer le week-end prochain. Mais peut-être aussi le club... voilà, il y a des questions à se poser. Est-ce que le club ne peut pas compter sur ces jeunes, essayer de voir ce qu'ils vont donner?
Justement, Louis Bonoury, un sentiment sur ces petits jeunes qui sont là.
Le sentiment, c'est qu'un de ces jours, il va bien falloir les lancer.
Enfin, voilà, ils ont 20 ans, ils peuvent y aller.
Les circonstances sont là. Que risque de plus le club de faire jouer ces jeunes?
Je suis de l'avis de Louis. C'est ma position.
En début de saison, Kevin Walters, Laurent Frissi nous ont insisté sur le fait. On recrute pas de demi parce qu'on en a trois derrière. On a David, on a Tony Gigot, on a William Bartou qui sont là. Donc, si ça pète à eux, donc est-ce qu'ils sont capables de leur confier les clés du camion vendredi au Crusaders?
Ah oui. Mais selon les blessures, moi je serais pas surpris de trouver à la charnière.
En fait, pour être clair, les vrais Catalans, on est jeudi soir. Ils attendent vendredi matin pour voir si ça, Walker peuvent tenir leur place. Auquel cas, si c'est pas possible, eh ben il y a la possibilité de voir un David Gouache à l'arrière, un Pélo au centre et ce qui a été travaillé hier soir.
Hier à l'entraînement, oui, toutes les pistes ont été travaillées. On peut voir Gigot à l'ouverture, un Bartou à la mêlée. Non, vraiment. Et puis, de toute façon, à un moment, le souci et ça, c'est un peu et on le trouve aussi dans le foot français, c'est-à-dire que on a le constat. Moi, j'ai discuté avec un entraîneur là de foot et au club, j'ai des super jeunes. Hein. Vraiment, j'ai des super jeunes. Ils sont bons. Là, on les prépare. Mais on ne les lance pas. On ne les lance pas. Et à 25 ans, on s'aperçoit qu'on avait des bons jeunes. Mais purée, là, j'ai eu peur. Je n'ai pas lancé. Et finalement, on ne les a jamais vus. Ben, donc, il faut un moment les mettre. Et puis, et on ne peut pas devenir bon joueur de Super League comme ça, du jour au lendemain.
Exactement. De jeunes, on en a un là. Ce soir, qui nous a accueillis au Bistrot du Bœuf. Willy, au Bistrot du Bœuf à Canet. Donc Willy Gouache, 20 ans, qui joue Saint-Estève 13 Catalan, qui a joué en première, qui a joué en junior, qui vient de faire 3 matchs d'affilée en première. Willy Gouache, on sait qu'il côtoie au quotidien les William Bartho, c'est la même génération. Tony Gigot, le jeune Salgue, David Gouache, le cousin.
Morgan Escarré, Nègre.
On sait que Willy, tu as eu ces jeunes aujourd'hui au téléphone, tu les as eu hier, ils ont fait le collectif avec les Dragons. Un a été essayé à l'arrière, l'autre à la charnière, l'autre a été essayé au centre. Ce soir, aujourd'hui, ils ont été comment?
Ben, après tout, tous ils rêvent de jouer. Je les ai encore vus hier. Ils sont venus nous voir jouer du côté de la colline, Play Sports Center. Voilà, ils sont venus nous voir jouer au Five Touch. Ils avaient envie de jouer, ils avaient envie, mais bon, ils sont là, ils sont au port des Dragons. Ils ont des contrats et ils peuvent pas faire les cons, quoi, comme on dit. Donc bon, là, ils ont envie de jouer, ils savent qu'ils peuvent. On a vu William déjà qui a joué. Donc voilà, Tony était deux fois dans le groupe. Et David, peut-être ce week-end, j'espère.
Willy, rassure-nous, c'est une formidable cerise sur le gâteau quand même, ces Dragons avant. Il y a de formidables joueurs catalans ici qui n'ont pas eu la chance d'avoir une équipe de Super League dans leur département. Et c'est une super chance pour vous. Donc vous êtes tous à fond, tous ces jeunes-là.
Ouais, bien sûr. Ouais. Les Dragons, merci beaucoup. C'est une chance. Il y en a peut-être qui, comme Romain Mencarini, qui sont partis vers Toulouse. Tant mieux pour lui. S'il a du temps de jeu, c'est bien. Et voilà.
Allez, merci au tonton. Alors, on a pensé au tonton ce soir.
Ouais, voilà, ouais.
Et d'ailleurs,
Sébastien Minos.
On le voit quand même avec des clubs, d'autres clubs de Super League. Il y a 2 ans, Tompkins, par exemple, à Wigan.
20 ans.
On ne savait pas qui c'était. Il jouait à l'académie. Il a mis premier match moyen, peu à peu. Et puis à la fin de l'année, on a dit purée.
Et Westerman avec Castelfort il y a 2 ans, à 18 ans. 18 ans, 3ème ligne.
Ismond.
Hervé,
je suis ce centre juste avant ce week-end, je crois que Saint-Hélène, ils avaient Wheelers et un autre jeune, pareil.
Moi, je suis heureux d'entendre Sébastien parler comme cela et ça me rappelle une conversation un matin où j'étais allé voir Bernard Gouache pour parler de rugby, un matin de bonheur. Et on s'était un peu pris le bec avec Bernard, justement, qui me reprochait à ce que Bobby Gulding ait mis le petit Bartou en équipe de France. Ça avait été une grande discussion, tu comprends, il n'est pas prêt. Moi, ça fait 3 ans que je le prépare, que je l'ai à la maison, on le prépare. Bon, moi, je me souviens que j'avais dit, écoute, tu peux pas garder pendant 3 ans, 4 ans, un jeune comme ça dans ton coton, dans exactement. Le formol, et si un jour il ne joue pas, sinon il va arriver à 30 ans, à 17, 18 ans, on peut être bombardé pour moi en Super League. Donc c'est fait, je suis content que tout le monde abonde dans ce sens. Comme tu disais, bon, mais si Mox en va, nous allons le regretter, j'ai été le premier à le dire. Mais si derrière il y a 3 jeunes Français qui peuvent encaper, on a tout gagné. C'est le travail de tous les gens en dessous qui ont fait ça et la qualité de nos joueurs
et
français.
Et comme l'a dit tout à l'heure Louis, c'est l'équipe de France aussi qui sera gagnante derrière. Et
justement, Louis.
Et Moore, par exemple, Moore, talonneur maintenant de Saint-Étienne. Je crois, premier match, 16 ans et 8 mois, la limite. À l'époque, ça remonte parce que Scott Moore, bon, on le voit depuis un moment, il est à Huddersfield, mais il a 21 ans.
Oui, mais ça fait 5 ou 6 ans qu'il joue déjà.
C'est le plus jeune joueur à avoir joué en Super League. Il faut avoir 16 ans et
7 ou 8 mois.
Ouais, et il les avait, hop, il a joué.
Louis Bonnery, allez, la conclusion.
Hein, Bobby Golding suit de ça de très près puisqu'il était à Limoux dimanche, suivre le derby
Limoux Carcassonne.
Avec beaucoup d'attention, donc voilà, ça bouge un peu.
Alors on va conclure, Olivier. Olivier va remercier forcément les partenaires de cette émission, de cette 13e heure.
Alors attendez, monsieur Guiraud n'a pas fini, juste avant...
Non, justement, on n'a pas, puisqu'on parle de jeunes, tout à l'heure, nous parlons de la Coupe Lord Derby. Il y a aussi la Coupe Lugnitaire, les demi-finales 3 et 4 à Ville, dont les juniors de Carcassonne rencontreront ceux de Villeneuve en ouverture le dimanche à Limoux. Et par contre, il y a la demi-finale Catalampia qui aura lieu donc à Ille-sur-Thé. Le président Liga nous a m'a précisé et me mettait le terrain à disposition. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est inutile d'aller faire jouer un ouverture de club catalan à Montpellier, donc là on va faire une grande fête à Ille-sur-Thé. Là je pense que tu vas être Olivier, on sait qu'on est toujours bien reçu et je crois que ça sera la fête des jeunes catalans le 3 avril, ce sera un samedi soir à Ille-sur-Thé.
Vous avez bien fait monsieur Guiraud, c'est très important de dire toutes les manifestations, notamment des jeunes. Allez, on va remercier les sponsors comme d'habitude, donc le magazine Camomille.
L'excellent papier d'Hervé Girette qui nous annonçait que Gasnier allait remplacer Mog au Dragon.
Sur
le forum, tout le monde va être déçu ce soir. Bon.
On en a parlé, Sébastien Milos, on a parlé.
Ah ouais, mais on connaît. D'Hervé Girette, non.
On connaît quand même la malice depuis longtemps d'Hervé Girette qui a toujours été un peu pipole et qui a toujours un peu amorcé à lancer des infos. C'est vrai qu'il nous a fait.
Et d'ailleurs, il en a profité pour balancer quand même le prénom, le nom de famille.
Voilà, et demain, je pense qu'il va balancer un autre article. Il va continuer dans ce sens en disant que Sonny B. William peut-être aussi est un fait de contrat est susceptible de venir au Dragon.
Il y a aussi le pauvre
Carmichael Lune qui joue les utilités en ce moment, donc qui nous rendrait service. Mais bon, je crois qu'il faut, on les aime bien ces Australiens, mais je préfère revenir dans ce que disait Sébastien avec nos trois jeunes.
Hervé, on l'invitera, Hervé Girette, bien entendu.
Oui, mais n'oubliez pas qu'il est là pour vendre du papier aussi, c'est son métier, messieurs. Attendez, allez,
Olivier.
Monsieur. Allez, les sponsors, Camomille, le magazine de fringues Brinchaille. Vous savez qui c'est la maman de Thibaut Margalet qui sponsorise à la 13e heure. Remercie encore une fois Willy, Gouache, le Bistrot du Bœuf à Canet avec le Scooby-Doo. Merci à toi. L'entreprise C2A de Régis Ribert qui nous aide. L'Amicale des Dragons de la Tête qui a participé aussi à la... Oui, n'applaudissez pas, c'est pas grave. Et puis Sébastien, je te laisserai, mais je sais que Bruno va te remercier, mais moi, tu as toujours été à mes côtés, notamment lorsque je présentais les squads des Dragons à Ille-sur-Tête. Monsieur Forge,
oui.
Merci de votre présence.
Oui,
mais c'est Bruno qui va finir l'émission.
Pour les premières, ça...
Sébastien, tu as toujours été à nos côtés, notamment à Ille, pour la présentation des Dragons. Tu sais qu'on ne t'oublie pas. Tu es le bienvenu à Ille et à Corbert. Et bien, merci à vous tous, mes amis. Et allez, je laisse la parole à Bruno. Voilà,
merci à tous de nous avoir suivis sur cette 3e émission de la 13e heure. On se retrouvera mercredi prochain. On n'a pas encore défini le lieu. René. Olivier, mais mercredi prochain, 19h, avant la venue de LKR, il y aura un tour de pouce de l'air. Sébastien Milos, merci. Alain Bonneries sera revenu avec nous, pourra diriger un petit peu toute cette émission. Louis Bonnery, Olivier, Alain Forge, René Montana, Hervé Guiraud, merci. Bonne soirée à toutes et à tous.